Spiritu, mentes tuum visita, in plesu per natia, quae tu creasti pectora, qui paraclitus diceris, altissimi donum Dei, fons fibus signis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dictus paterne dextere, tu rite promissum patris, sever meneditans cultura. Accente lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, patsemque dones protinus, doctores ipte previo, vitemus omne noxio. Per te siamus da patre, nascamus atque filium, teque utriusque spiritum, creetamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac paraclito, in seculorum secula. Amen. Emite Spiritum tuum et omnia creabuntur, et renovabis facientere. Et renovabis facientere. Oremus Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione da quisti, da nobis in eadem Spiritu rectas opere, et Deus Semper consolatione gaudere per omnem Christum, Dominum nostrum. Amen. Bon, j'espère que c'est pas trop dur de comprendre ça. Et voir ce qu'entend Saint-Type de Garde. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Non. Il y a une petite chose que j'ai pas compris. Alors, et donc, n'oubliez pas ça, hein, c'est que elle, c'est à l'âge de dans sa 43e année qu'elle est envoyée en mission pour proclamer l'Apocalypse. L'Apocalypse en Grèce, ça veut dire révélation, dévoilement. Ça veut pas dire fin du monde. Hein. La révélation dont nous savons donc aujourd'hui qu'elle est réservée pour 9 siècles après elle, puisque c'est le pape qui décide pour quand ces révélations ont été données à la terre. Elles ont été données à la terre à un moment donné, mais elles ont été données pour quelle période de l'humanité? C'est la nôtre. Nous sommes donc les premiers à en faire connaissance. Je veux dire, à en faire connaissance dans la bénédiction et la lumière ignée venue du ciel en nous. C'est pour ça que toutes les manières de connaître Hildegarde jusqu'à aujourd'hui, parce que le Saint-Père n'avait pas ouvert le pouvoir des clés de l'Église du ciel dans la terre et de la terre dans le ciel, bah, il n'y avait pas accès. C'est pour ça que les gens ont pris des choses partielles.
Oui. Quand tu crois le pape, là, il n'y a pas longtemps, pour que ça soit... C'est quoi qu'il a proclamé?
Il a proclamé que Saint Hildegarde était docteur de l'Église. Il y a 9 mois.
Donc tout ce qu'elle a écrit, c'est...
Donc elle a été canonisée déjà. Béatifiée et canonisée, mais docteur de l'Église, ça veut dire que toutes ces visions relèvent de l'infaillibilité, qu'on ne doit rien retirer. Et rien à rajouter. Alors les gens ont pris... des éléments épars. Hein. Elle a donc 43 ans à partir du moment où Dieu lui dit proclame et que le pape lui demande aussi. Enfin bref, donc et c'est le Scivias qui va se donner. 43 ans, c'est quoi? C'est l'âge de la Vierge, 13 ans à son mariage, plus les 30 ans avec Saint Joseph. À la mort de Saint Joseph, la proclamation de la parole de Dieu, les 300 et demi de l'évangélisation de la bouche du Verbe de Dieu, le Père n'étant plus là, le Verbe s'exprime. Joseph ayant disparu, Joseph, il a fallu attendre que Joseph soit à nouveau dans la tardemar de la mort rédemptrice de Jésus Sauveur, puisque il est rentré, vous le savez, Saint Joseph, dans cette tardemar deux fois, une fois pour, comme nous l'avons dit, s'unir à l'instant de la transactuation surnaturelle sponsale de Sainte-Anne et Saint-Joachim, dans l'unique blessure de l'agneau qui assumait et l'un dans, et les deux autres dans la perfection mutuelle de la mariage spirituel surnaturel assumé, dans l'un. Et là, il est rentré en tardement, c'est-à-dire en commotion, quoi. Un peu comme Adam est rentré dans le sommeil de la perfection spirituelle en Dieu, d'où l'acte créateur de Dieu a pu émaner, faire émaner la femme de la blessure de son côté. Vous vous rappelez de ça, quand même. Et la deuxième fois qu'il tombe en tardemar, mais c'est tout simplement au bout de 30 ans d'union transformante dans la Sainte Famille, hein, avec l'incarnation du Verbe de Dieu. Avec l'incarnation du Verbe de Dieu dans la chair. Ils sont donc trois. Et il va y avoir, avec la conjonction de la conception et de la sponsalité, l'unité des deux, conception dans le Verbe de Dieu et puis sponsalité dans l'union transformante, une nouvelle mariage spirituel qui va amener Saint Joseph à être dans un état de transformation surnaturelle parfait, dans la mort du Christ, hein. Dans la mort du Christ, mais en même temps que son union hypostatique, les deux assumés dans le feu de sa transformation, la transformation de son cœur, de son corps, de son sang. Et c'est comme ça que Saint Joseph est mort. C'est comme ça que Saint Joseph s'est endormi. Il s'est endormi non pas d'une mort naturelle, il s'est endormi d'une mort surnaturelle, pneumato-surnaturelle. Et donc il y a eu deux tardemas. La deuxième tardema de Saint Joseph est très importante pour nous. Bon, c'est pas moi qui vous apprends quand même que Saint Joseph a vécu depuis que le Verbe est devenu chair. Beaucoup de mouvements en ce moment. C'est la digestion qui fait ça. Elle l'explique bien, la digestion. Bouscule les humeurs. Elle réclame l'aquilon si le souffle n'est pas suffisant pour calmer les ardeurs. Alors l'humidité elle-même. Elle met la chair dans un état de sensibilité, de fragilité. Chasse perd sa place. Bon, je pense que le mouvement de l'humidité déséquilibrée dans l'aquilon va retrouver une ardeur nouvelle dans un équilibre plus élevé, j'espère, n'est-ce pas? Alors, donc, comprenez bien que Joseph, Marie, dans leur mariage avec Jésus pendant 30 ans, l'union transformante, l'union hypostatique de je suis déchiré, qui est déjà en Saint-Joseph, et qui surabonde et se surmultiplie dans l'au-delà de son unité sponsale avec l'absolution universelle qui est en Marie, s'associe à l'union hypostatique dans l'enfant Jésus, dans Jésus, dans son bar mitzvah, dans Jésus, dans son adolescence, son état adulte. Et dans toute la croissance de cet âge, eh bien, il y a 10 ans, plus 10 ans, plus 10 ans. Vous avez bien compris. Donc, il ne se passe rien, quoi. Il se passe quand même quelque chose dans Saint-Joseph à ce moment-là. Vous voyez bien qu'il faut 30 ans, puisqu'il faut 10 ans pour la surnaturalisation de son corps dans le corps du Christ, adapté à l'union hypostatique déchirée du Rédempteur, et dans la mise en place de son de cette union, cette union transformante. C'est bien que vous voyez bien que ce qui brûle cette fois-ci corporellement le cœur, le cerf, le sang de Saint-Joseph et de Marie aussi, c'est la blessure du cœur de Jésus en préparation, mais déjà en acte. L'anticipation est différente que l'anticipation de celle de ces 19 premières années. Et donc il y aura une deuxième Tartema. C'est pour ça qu'on dit que Saint-Joseph est mort d'une mort parfaite, c'est-à-dire une mort surnaturellement parfaite. Il est mort de la mort de Jésus crucifié, mais Jésus crucifié, il a vécu pendant 30 ans avec Jésus, déjà crucifié, parce qu'enfant il est crucifié. Dans son union hypostatique déchirée, il l'est déjà, avant sa naissance, à sa naissance, Jésus. Il est tout le temps dans l'union hypostatique déchirée. La croix, c'est simplement la manifestation de ce qu'il vit continuellement. Tota vita Christi, crux fuit et martyrio. Toute la vie du Christ a été la croix et le martyr. Et vous croyez que Saint-Joseph n'était pas au courant? Saint-Joseph vivait d'une union parfaite avec lui, semblable. Et donc, l'union transformante se réalisait dans l'au-delà de l'unité des trois, à l'intérieur de l'union hypostatique déchirée de Jésus, et ceci pendant 30 ans. Il faut 30 ans, parce que il faut 10 ans pour la purification du corps, dans les séquelles déchues du péché originel. Il faut 10 ans pour la mise en place du corps spirituel, et 10 ans à nouveau pour l'au-delà de son unité sponsale avec Marie, dans l'intégration de la mort de Jésus dans son propre corps de papa, de père. C'est bien que le premier à mourir de la mort de Jésus sur la croix, c'est Saint Joseph.
À 19 ans, oui, là. Je comprends pas. Parce qu'il avait déjà.
Non, mais 19 ans, il n'était pas marié avec Marie, d'accord ? Il ne la connaissait pas. Puisque c'est à l'âge de 19 ans. Saint-Joseph, que Marie a été créée et conçue. Donc ces 30 années de vie cachée, d'union transformante, a établi Saint-Joseph, la mort de Jésus, dans la paternité, si je puis dire, surnaturellement établie du corps spirituel de Saint-Joseph. Il faut bien 30 ans, puisqu'il faut 10 ans pour le corps se renouveler dans ses cellules, dans son sanctuaire vivant. C'est quand même, je vous l'ai dit 800 fois, ça. Le corps se renouvelle dans ses cellules. Au départ, nous n'avons qu'une seule cellule. Bon, je recommence. Au départ, nous n'avons qu'une seule cellule. Puis cette cellule se multiplie. Puis cette cellule se multiplie. Puis, dans l'enfance, elle grandit. Dans l'adolescence, elle mûrit. Dans l'âge adulte, elle se fortifie. Et environ toutes les minutes, il y a 10 millions de cellules vivantes avec votre mémoria de vie vivante, lumineuse, diamant, encore présent du roi des rois, encore présent dans chacune de vos cellules. Il y en a environ 10 millions qui meurent chaque minute et qui sont remplacées par 10 millions de cellules nouvelles. Si pendant cette minute, vous êtes dans l'état de mariage spirituel de l'union transformante dans la septième demeure, ces cellules nouvelles sont des cellules qui sont informées par l'état de perfection de votre union transformante. Mais il faut 10 ans pour que le poids cellulaire de l'homme se renouvelle totalement. Vous voyez, par exemple, ici, si vous avez 120 kg de cellules, il y en a 60 kg qui sont fraîches de 5 ans. Si par exemple, je ne fais oraison qu'à partir d'aujourd'hui et que je rentre dans la 7e demeure de l'union transformante seulement aujourd'hui, eh bien j'en ai pour 10 ans. Pour pouvoir écraser la tête de l'Antichrist. Parce que ça ne se fait pas sans le corps. Donc Saint Joseph, lui, son corps, n'oublions pas, c'est la responsabilité avec Marie. Et donc il faut 30 ans. Au bout de 30 ans, la mort incarnée de Jésus s'inscrit dans tout son être, corps, âme et esprit, surnaturellement transformé. Mais lui, il n'est pas l'Immaculée Conception et il n'est pas l'union hypostatique de Jésus. Et donc, il en meurt. Donc, la première fois que la grâce messianique du Verbe de Dieu établit dans l'homme la mort rédemptrice du Christ, c'est dans Saint Joseph. Il meurt, il descend aux enfers. Il descend dans les lieux de la mort, dans l'Hadès. Il descend dans les lieux inférieurs, il va rejoindre Abraham, il enveloppe Abraham. Mais c'est en lui, dans son âme, la blessure du cœur de Jésus, Marie-Joseph, qui rentre en enfer, qui rentre dans les lieux inférieurs. Donc, ça y est, tout l'enfer est ajusté, et la parole de Dieu peut se manifester. Le Père se tait, sa tardema est accomplie. En raison de quoi ? L'émanation de la parole, du Verbe de Dieu, de la parole, de la Haggadah, ce féminin Haggadah du Verbe de Dieu, peut se manifester au monde. Eh bien, saint Hildegarde, la manifestation de la Haggadah nouvelle s'est réalisée quand elle avait 43 ans. Si vous comptez bien, donc, vous savez, à 13 ans, Marie s'est mariée. Le mariage de Marie, c'est à l'âge de 13 ans. Et 30 ans après, 43 ans, c'est la mort de Saint Joseph. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que dans quand Dieu parle à Saint Hildegarde, il parle à l'homme à l'état de perfection, dans l'accomplissement de l'homme. Et donc, il parle, il s'adresse. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Homme, c'est une femme. Homme. Cette parole s'adresse à travers tous les temps, surnaturel, pneumato-surnaturel de l'homme. Donc ça s'adresse en premier à Saint Joseph. C'était évident. Enfin, celui qui ne comprend pas ça, à ce moment-là, il ne comprendra rien de Saint Hildegarde. Et il pourra sucer son émeraude. C'est dommage. C'est pour ça que je mets quand même un petit peu l'accent quand même. Sur 888, ça veut dire qu'il faut le vivre en oraison dans l'union transformante, sinon vous n'avez pas la clé de lecture. Il faut le vivre avec Saint Joseph dans son union avec le mariage qui fait naître l'Immaculée Conception, sinon on n'a pas la deuxième clé de lecture. Et vous n'avez pas non plus la troisième de clé de lecture, si c'est pour sa manifestation dans la compréhension et son efficacité dans le monde. Si vous n'avez pas la troisième clé de lecture, qui est justement la tardema, deuxième tardema de Saint-Joseph, hein, le Verbe de Dieu, la transverbération de tout le corps, de toute l'âme, de tout le sang, de toutes les cellules de Saint-Joseph, qui fait rentrer dans les très grandes profondeurs des ténèbres. Et en même temps, il possède les très grandes hauteurs de la transverbération accomplie. La sainteté de Joseph est immense. Et c'est à l'âge de 43 ans, vous voyez. C'est quand même... Vous savez, tout est fait avec nombre, poids et mesure. Hein, et... Alors, on peut lire quelques passages séparés, c'est sûr. Si parfois, à cause d'une décision de Dieu, les éléments dont j'ai parlé répandent leur terreur de façon désordonnée, ils apportent des périls innombrables, multiples au monde et aux hommes. Le feu est comme une lance, l'air comme une épée, l'eau comme un bouclier. Avec un bouclier, quand vous allez au combat, vous frappez l'adversaire. Et la terre comme un javelot appelé à châtier les hommes. En effet, les éléments sont soumis à l'homme. Et ils remplissent leur fonction en tenant compte de l'acte des hommes. En effet, lorsque les hommes s'affrontent entre eux dans des combats, des scènes d'épouvante, lorsqu'ils agissent de haine, lorsqu'ils actuent l'envie et tous les péchés qui les opposent, alors, ces éléments se transforment en leur contraire. Chaleur, froid, débordement immense et inondation. Et cela vient du plan primitif de Dieu, parce qu'il a été décidé par Dieu que les éléments réagiraient en fonction des actes des hommes. Parce qu'ils sont touchés par leur action, puisque l'homme travaille en eux et avec eux. Ce n'est donc pas métaphorique. Lorsque les hommes sont sur le droit chemin et font le bien et le mal avec mesure, alors les éléments, par la grâce de Dieu, remplissent leur fonction selon les besoins de l'homme. Le mal avec mesure, ça veut dire l'imperfection. Je respecte le temps de mon union transformante. Je passe par les purifications et je dois respecter cette volonté de Dieu parce que dans ma purification, l'univers est purifié. Et pourtant, dans la purification, il y a bien des fantasmes. Il y a bien des excrétions de bile et de noirceur. Mais je n'y consens pas. Et pourtant, j'en suis l'acte. Mais celui qui veut anéantir toutes ces noirceurs, il est dans l'excès du bien, il va vers l'abîme. Celui qui ne veut pas souffrir la purification refuse la croix. Mais la croix est au cœur du soleil. Et il apporte, qui cache derrière le bois, l'or qui ouvre le ciel. Des énergies de l'homme et de sa virilité surnaturelle. Au milieu du cosmos se dresse l'homme, parce que l'homme est plus important que toutes les autres créatures, qui demeurent dépendantes du monde. Bien qu'il soit certes petit de taille, il est cependant puissant par la force de son âme. Sa tête est dirigée vers le haut et ses pieds s'appuient sur un fondement ferme. Il peut donc mettre en mouvement aussi bien les choses les plus élevées que les choses les plus basses, dans l'unité d'un unique mouvement en Dieu. Ça, c'est du bon saucisson. Vous voulez que je vous le dise en anglais? I, the highest inferior power, have kindled every spark of life. I, the fury, life of divine essence. I am a flame beyond the beauty of the meadows. I gleam in the waters, and I burn in the sun, moon, and stars. With every breeze, as with invisible life that contains everything, I awaken everything to life. The air lies by turning green and being in bloom. The waters flow as if they were lives. The sun lives in its light and the moon is enkindled. After its disappearance, once again by the light of the sun, so that the moon is again revived. And thus I remain hidden in every kind of reality, as a fiery power. Everything burns because of me in the way your breath constantly moves us, like the wand tossed flame in a fire. C'est beau, hein? On a un bilingue là. Combien? Tu peux traduire? Intraducible.
Il y en a que qui a compris.
Non, si, on comprend. Ah,
la première partie était un petit peu plus difficile à comprendre que la
seconde. Si, si, c'est possible. Ça fait rien, faut l'entendre en anglais. On voit que c'est fort en anglais aussi.
C'est d'origine en allemande ou non?
Pardon?
C'est d'origine en allemande.
Oui, origine latine et allemande. La vision envahit tout mon être. Je ne vois plus avec les yeux du corps, mais elle m'apparaît dans l'esprit des mystères. Je connais la signification profonde de ce qui est exposé dans le psautier, dans l'évangile et d'autres livres qui m'apparaissent en vision. Celle-ci brûle comme une flamme dans ma poitrine et dans mon âme et m'enseigne à comprendre en profondeur le texte. Toute l'œuvre. Donc elle rapporte à un moment donné, les cinq dernières visions, ce sont des visions qui sont inspirées à partir du prologue de l'Évangile de Saint-Jean. Vous savez, dans le Verbe est devenu chair, dans le Verbe est dans le principe, il est dans le Père, il est face au Père, il est Dieu. Ces cinq visions sont inspirées par le prologue de l'Évangile de Saint-Jean. Jean me rapporte les paroles que le Fils adresse au Père. Toute l'œuvre que tu as voulu et que tu m'as confiée, je l'ai menée à bien. Et voici, je suis en toi et toi en moi et nous sommes un. Toute la création est une symphonie du Saint-Esprit qui est en moi, joie et jubilation. Puissions-nous à l'aide. Comme disait Saint Bernard, puissions-nous à l'aide, avec l'appui de Saint Hildegarde et à l'exemple de Saint Hildegarde, continuer à chercher Dieu. Je suis un faible son de trompette provoqué par la lumière vivante. Une trompette qui est une prophétie. Qui est une prophétie qui est dans l'homme comme l'âme dans le corps. De même que l'âme est obscurcie dans le corps et que celui-ci est dirigé par elle. De même la prophétie issue de l'Esprit Saint qui gouverne toute créature, est invisible. Ô âmes admirables qui passez, en voyant les mystères par les yeux de l'Esprit Saint et en annonçant dans l'ombre lumineuse la lumière aiguë et vivante. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Il faudrait tout lire, hein, c'est, je sais bien. Mais ce que je voulais vous lire, c'est la création du ciel et de la terre. J'ai été comblé de ces fulgurances célestes. Dans la nature même de cette lumière vivante, d'où tout procède, et à laquelle nous sommes invités à nous unir. La lumière que je contemple n'est pas liée à l'espace. Elle est beaucoup, beaucoup plus vive qu'une nuée porteuse de soleil. Je ne puis en déceler ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur, on me dit que c'est l'ombre de la lumière de la vie. Au cœur de cette lumière vivante, il m'est permis de contempler la fulgurante image du Verbe incréé, préfiguration de l'être humain qui doit être marqué de son sceau et porté au plus profond lui-même son image et sa ressemblance. Je pus contempler alors dans le secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du midi, une figure merveilleuse. Elle avait apparence humaine, la beauté, la clarté de son visage étaient telles qu'il eût été plus facile de regarder le soleil que de contempler ce visage. C'est moi, l'énergie suprême, l'énergie ignée, l'énergie. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fut. De toute réalité, je décide. Mes ailes supérieures englobent le cercle terrestre. Dans la sagesse, je suis l'ordinatrice universelle. Sans origine, sans terme, je suis cette vie qui, identique, persiste, éternelle. Cette vie, c'est Dieu, c'est moi-même. Vous voyez bien qu'elle est féminine, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Elle est perpétuel mouvement, perpétuelle opération, possède une triple énergie. L'éternité, c'est le Père, le Verbe, c'est le Fils, le souffle qui relie les dieux, c'est l'Esprit Saint. Dieu l'a représenté dans l'homme. Il a en effet un corps, une âme et une intelligence. Vous voyez, comme elle attribue le corps au Père, l'âme, la psyché, au Verbe, et l'intelligence. C'est normal, parce que le nous et l'Esprit Saint nous identifient ensemble à l'amour qui assimile et réalise ce qu'il assimile en jouissant. La dynamique interne de la Trinité, dans son essence suressentielle, est l'amour. Au sein de l'énergie de la déité pérenne, dans le mystère de ses dons, elle est une merveille d'une insigne beauté. Et si elle a l'apparence humaine, c'est que le Fils de Dieu s'est revêtu de chair pour arracher l'homme à la perdition dans le service d'amour. L'âme qui vit, par cette vie qui est Dieu, par son souffle vital né de l'Esprit de Dieu, l'âme donc détermine la vie, vivifie et soutient ce corps grâce à ses énergies de la même manière que les astres, eux aussi, illuminent le firmament. De même que les éléments assurent la cohésion du monde, de même ils assurent la structure du corps. Leur diffusion et leur fonction se répartissent à travers l'homme de telle sorte qu'ils se maintiennent en cohésion. De même qu'ils sont diffus à travers le monde et agissent. De même dans l'homme, les éléments reçoivent la santé lorsqu'ils agissent en lui de façon ordonnée. Mais dès qu'ils s'écartent de cet ordre, hein, tous ceux qui utilisent un titre de garde en s'écartant de cet ordre, ils le rendent malade et ils le tuent. Ô homme, tu as en toi le ciel et la terre. Fais de ce monde un ciel sur la terre. Voici les chemins. Connais-les. Skivias, connais-les. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il attendit que l'Aquilon rende monstrueux les êtres humains. Et lorsque le firmament des eaux descendit en bas, il fit naître l'arc-en-ciel. C'est qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel dans la création du monde et dans les premiers âges et premiers millénaires de l'homme. Lorsqu'Adam fut chassé du paradis, l'eau, avant le déluge, n'avait ni la rapidité à s'écouler, ni la fluidité qu'elle eut par la suite, mais elle était recouverte d'une sorte de membrane. L'eau était recouverte d'une sorte de membrane qui la maintenait quelque peu, si bien qu'elle coulait peu. C'est parfaitement vrai, ça. La terre alors n'était pas limoneuse, mais sèche et cassante, car elle n'avait pas encore été imprégnée d'eau, mais selon le premier commandement, elle donnait du fruit en abondance, parce que l'homme était là, dans la viridité, il lui donnait sa fécondité. Les hommes oublièrent Dieu, si bien qu'ils agirent plus à la ressemblance des animaux qu'à la ressemblance de Dieu, et beaucoup aimaient plus les animaux que les hommes. Si bien que hommes et femmes se mêlaient et s'unissaient aux animaux, tant et si bien que l'image de Dieu en eux était presque détruite.
Hier, j'étais à Fourvière, il y avait une petite fille qui prenait sa main en laisse, qui a son papa, mais...
Et toute l'espèce humaine était changée et transformée en monstre. Si bien que certains hommes modelaient même leur conduite et leur voix sur celle des animaux, dans leurs courses, leurs cris et leur façon de vivre. Ben, c'est sûr. Adam était magnifique et puis il y a eu une dégradation et les hommes sont devenus grégaires, comme des singes. Il n'y a pas eu une évolution du singe à l'homme, c'est exactement le contraire. L'évolution du singe vers l'homme, c'est une aberration, une erreur scientifique, une fausseté du singe. Tous les savants savent que c'est absolument impossible. Mais si Saint-Hildegarde nous le réexplique, ça nous va mieux. Comme ça, on ne discute pas sur le plan de l'épistémologie, parce qu'on est plus à l'aise avec la vérité qu'avec l'erreur. Oui, leur course, leur façon de vivre, leur voix. Ils modelaient leur conduite sur celle des animaux parce que bêtes, sauvages, ces troupeaux avant le déluge n'avaient pas encore l'aspect repoussant qu'ils eurent par la suite. Les hommes ne les fuyaient pas plus qu'ils ne les fuyaient, et les uns et les autres ne se craignaient pas. Mais bêtes et troupeaux restaient volontiers avec les hommes avec eux, parce qu'à l'origine, ils avaient pris naissance à peu près ensemble. Ils sont déchus ensemble. Bêtes et troupeaux touchaient de près les hommes, et les hommes les touchaient de près. Et dans leur différence, ils s'aimaient réciproquement et s'unissaient les uns aux autres. Cependant, Adam avait donné le jour à un certain nombre d'enfants qui étaient, eux, si bien remplis de la raison divine, qui n'acceptaient pas de se livrer à aucune turpitude et demeuraient dans la sainteté. C'est pourquoi eux ont été appelés fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu? C'est que ceux-ci observaient et cherchaient à voir où se trouvaient les hommes qui ne s'étaient pas unis aux bêtes. Bien qu'ils fussent des fils des prévaricateurs, comme on l'a dit plus haut, et ceux-ci étaient appelés fils des hommes parce qu'ils ne s'étaient pas avilis dans leur corps et ne s'étaient pas unis aux animaux. Et les fils de Dieu épousèrent leurs filles, et d'elles ils engendrèrent des fils selon ce qui est écrit, les fils de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles. En fait, il existe encore des animaux et des espèces de bétail qui, de la façon que nous avons dite, ont récupéré en elles, venant des hommes, beaucoup d'éléments de la nature humaine, en raison de cette proximité lamentable. Alors, la clameur de cette iniquité monta jusqu'aux yeux de Dieu, car l'image de Dieu avait été déformée et détruite, et son caractère raisonnable bouleversé dans la fornication. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, qui lors de la création planait sur le monde, envoya des eaux sur les eaux, et la membrane des eaux qui empêchait un peu les eaux de s'écouler avec la rapidité qu'elles ont maintenant, fut alors déchirée. L'eau devint très rapide dans sa course et submergea les hommes. Alors l'eau imprégna si bien la terre que celle-ci en devint comme ferrugineuse et dure, que dans toutes ses productions elle donna un suc nouveau et plus fort qu'auparavant, et qu'elle donna du vin ce qui ne s'était encore jamais vu. Par ailleurs, les pierres qui ont été créées en même temps que la terre et qui avaient été recouvertes par elle furent laissées à l'air par les eaux et apparurent. Et certaines d'entre elles se fendirent, alors qu'elles avaient été intactes jusqu'alors. Quant aux pierres, donc, leur nombre n'augmenta ni avant ni après, à l'exception de celles qui apparaissent dans les fleuves clairs et polis. Mais créées en même temps que la terre, elles furent simplement révélées par le déluge. l'arc-en-ciel. Dieu alors plaça son arc au firmament du ciel pour le fortifier et le faire résister aux eaux. Cet arc est de feu. Il a les couleurs des eaux. Ses couleurs sont fortes contre les eaux comme contre les nuages. De la sorte, il maintient les eaux par ses couleurs comme un filet retient les poissons et les empêche de s'écouler. Après le déluge, apparurent chez les hommes une sagesse plus grande et des vertus plus grandes qu'auparavant. Avant le déluge, la terre était remplie d'hommes et d'animaux et ils n'étaient pas séparés les uns des autres par des eaux ou des forêts. Parce qu'il n'y avait encore ni grand fleuve ni grande forêt, mais seulement des ruisseaux, des rivières qu'on pouvait facilement franchir, un petit nombre de forêts que les hommes traversaient facilement, mais après le déluge. Un certain nombre de sources et de ruisseaux se sont gonflés en fleuves immenses et dangereux. De grandes forêts ont poussé, par lesquelles hommes et animaux se sont trouvés séparés, si bien que finalement, les hommes détestaient les animaux et que les animaux détestaient les hommes parce qu'avant le déluge, il ne pleuvait pas. Une simple rosée descendait sur la terre. Par la suite, la terre a été imprégnée par les eaux au cours du déluge et la terre eut naturellement besoin de recevoir la pluie des eaux. C'est pourquoi l'âme donne la vie au corps. Comme le feu fait pénétrer la lumière dans les ténèbres au moyen de deux forces principales qu'elle possède, l'intelligence et la volonté, qui sont comme ses deux bras. Non que sa force ait deux bras pour se mouvoir, mais parce qu'elle se manifeste par ces deux forces, comme le soleil se manifeste par la splendeur et par la lumière. L'âme dans le corps est donc comme la sève dans l'arbre, et ses facultés comme les rameaux de l'arbre. C'est que l'intelligence est dans l'âme comme la verdeur des rameaux et des feuilles, et la volonté comme les fleurs, l'esprit comme le premier fruit qui sort de lui, la raison du cœur comme le fruit parfait qui vient à maturité, le sens comme l'extension de sa grandeur. C'est de cette façon que le corps de l'homme retrouve alliance dans la fortification nouvelle soutenue par son âme. J'ai vu une splendeur immense et toute sereine, émettant de la lumière comme par des cieux multiples, avec quatre angles tournés vers les quatre parties du monde. Elle me fut manifestée dans un grand mystère, car elle représente le secret du Créateur suprême, et en elle apparut une autre splendeur semblable à l'aurore, ayant en elle l'éclat d'un reflet pourpré. Oui, la lumière. L'aurore, la splendeur et le reflet pourpré. Alors je vis sur la terre des êtres humains qui, portant du lait dans des vases d'argile, en faisaient des fromages. Une partie était épaisse et donna des fromages durs. Une partie était légère, donna des fromages mous. Enfin, une partie mêlée d'une pourriture donna des fromages amers. Oui. La splendeur qui rentre dans le corps de l'homme, le jeune homme, puis après, la nouveta. Ce qu'on dit, un amas cellulaire, oui, la nouveta, un petit comme du fromage. C'est après. Je vis une sorte de femme qui avait en son ventre comme une figure d'homme presque achevée. Et voici, par une secrète disposition du Créateur suprême, cette même forme s'agita d'un mouvement de vie. Si bien qu'une sorte de sphère de feu qui n'avait aucun trait de corps d'homme occupa le cœur de cette forme, au centre, puis toucha son cerveau et se répandit dans tous ses membres. C'est beau ça, voir comment Dieu crée au départ dans la splendeur de la lumière, dans la splendeur de l'aurore et dans la pourpre, la lumière pourpre, hein, qui manifestent les trois puissances de l'âme dans le génome, n'est-ce pas? Et puis, après, ça vient se répandre dans le cœur, puis après dans le cerveau, enfin toutes les progressions, le fromage, puis le cœur, puis le cerveau, puis les membres. Et c'est une sphère de feu qui n'avait aucun trait du corps de l'homme, de corps humain, qui occupa le cœur de cette forme et toucha son cerveau. Voilà pourquoi, voyez, dès qu'il touche le cerveau, vous commencez à avoir une actuation de l'intelligence, du jugement. Vous pouvez recommencer à être enseigné par l'ange. Le cœur commence à apparaître, il bat au 19e jour, je crois. Je ne sais plus. Je me trompe peut-être, hein, je sais pas, c'est peut-être le 22e. Hein, Et le début donc des connexions cérébrales, c'est la 4e semaine. Cette sphère de feu, après avoir occupé le cœur du bébé, touche son cerveau et se répand dans tous ses membres. Telle est l'âme, grâce à cette énergie que l'âme nourrit. C'est grâce à cette énergie que l'âme nourrit le corps tout entier, le garde en vie. Oui, donc ça ne dépend pas du cerveau, quand le cerveau s'arrête. Puisqu'il était avant, ça ne dépend pas du cœur qui s'arrête, puisque le cœur a commencé à battre après. Le cheminement de l'âme dans le corps est de la nature du vent. L'âme inspire et expire de l'énergie vitale. L'âme joue le rôle d'une maîtresse de maison, nous l'avons lu. Dieu a façonné le corps humain en sorte que l'âme puisse y vivre. Personne ne peut voir l'âme, tout comme personne ne peut voir Dieu. Mais la foi nous permet de voir et de devenir sage. Les pensées sont les annales de l'âme. Elles s'élèvent jusque dans le cerveau et de là se répandent dans le corps tout entier. De la même manière, l'âme pénètre les yeux, parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme et le pont vers le macrocosme, le fond de l'univers et du temps. L'âme nourrit l'organisme humain et régénère tout le corps. Le corps prospère au contact de cette fonction nourricière et peut se maintenir en bon état. Le corps et l'âme, malgré leurs différences, constituent une seule réalité, qui est l'œuvre de Dieu lui-même. L'être humain est une réalité corporelle. L'âme souffle comme les courants d'air dans une maison, répandant l'énergie de la pensée, de la parole, de la respiration. Aussi longtemps que le corps et l'esprit œuvrent de concert, l'âme reste soumise à la terre. Et toutes les pierres, comme nous l'avons dit, se sont ouvertes au moment de l'alliance retrouvée, l'arc-en-ciel. Ces pierres se sont brisées, mais elles sont aussi remontées à la surface. Le diamant, l'or, l'argent, l'onyx, l'émeraude, le saphir. Et ils ont tous une fonction, un rayonnement, comme on disait tout à l'heure, un rayonnement, une fécondité et une énergie, une virilité, à cause de cette unité de l'âme dans le corps de l'homme. Sinon, il n'aurait pas cette virilité par elle-même. Car c'est l'homme, dans les œuvres de Dieu, qui donne la virilité aux éléments. L'émeraude, par exemple, pousse tôt le matin, au lever du soleil, lorsque ce dernier devient puissant et amorce sa trajectoire dans le ciel. À cette heure, l'herbe est particulièrement verte et fraîche sur la terre. Car l'air est encore frais et le soleil est déjà chaud. Alors les plantes aspirent si fortement la fraîcheur en elle, comme un agneau aspire le lait, en sorte que la chaleur du jour suffit à peine pour réchauffer et nourrir cette fraîcheur, pour qu'elle soit fécondatrice et puisse porter des fruits. C'est pour cela que l'émeraude est un remède efficace contre toutes les infirmités et maladies humaines, parce qu'elle est née du soleil et que sa matière jaillit de la fraîcheur de l'air. C'est de quelle couleur l'émeraude ? Ah, c'est quelle couleur l'émeraude ? C'est vert. Celui qui a des douleurs au cœur, dans l'estomac ou un point de côté doit porter une émeraude pour réchauffer son corps et il s'en portera mieux. Mais si ses souffrances empirent tellement qu'il ne puisse plus s'en défendre, alors il faut qu'il prenne immédiatement l'émeraude dans la bouche pour l'humidifier de sa salive. La salive réchauffée par cette pierre doit être alternativement avalée et recrachée. Et ce faisant, la personne doit contracter et dilater son corps dans les vertus de l'émeraude et de la virilité de sa vertu, des accès subis de la maladie, certainement, vont finir par s'affaiblir. Vous voyez dans quel contexte on peut comprendre les pierres. Vous enlevez le soleil, vous enlevez le Christ, vous enlevez cette contradiction entre la monstruosité de l'homme, la régénération d'une nouvelle alliance, la justice dans les vertus nouvelles des commandements. Et vous utilisez les pierres en les séparant, ben vous faites un sacrilège. Et puisque ce n'est plus les vertus, la virilité de l'homme et de Dieu qui donne vertu aux pierres, c'est qui va remplacer cette viridification? C'est les puissances intermédiaires, vous avez tout compris. C'est pour ça que celui qui retire les paroles de cette révélation est condamné. Il en est de même d'ailleurs pour les plantes, quoi. Hein, pour les... C'est pareil, on a les... Il y a un petit truc sur les pierres ici, je vais essayer de trouver ça. C'est que le corps malade alourdit l'âme et contriste l'esprit. Mais réciproquement, l'âme pécheresse obscurcit le corps et le rend malade. Il faut donc guérir le corps avec l'aide de toute la création qui reçoit la vie de la Sainte Trinité par une nourriture adaptée, des infusions, des pierres précieuses Dieu a disposé dans la création, ce qui guérit l'âme. Mais cela ne suffit pas. L'homme resterait inachevé, sa joie serait incomplète. Il s'agit surtout de guérir l'âme du péché. Et pour cela, chacun doit coopérer à la grâce du Christ Rédempteur et s'efforcer de pratiquer le bien, d'éviter le mal. La venue du Christ dans son incarnation et sa mort sur la croix ont rendu visible l'amour de Dieu et ont rendu possible notre retour à Dieu. C'est pourquoi vous cultiverez, homme, les vertus, l'amour du Seigneur, la très sainte Trinité. Les pierres précieuses soutiendront certainement le chemin de guérison, à condition que l'homme s'efforce de s'orienter vers le Dieu créateur révélé en Jésus-Christ. Par exemple, vous porterez la topaze d'or. Mais portant la topaze d'or, vous direz cette prière pour réanimer votre origine divine. Ô Dieu, toi qui es glorifié par-dessus et en toutes choses, par égard pour moi, ne me rejette pas hors de ta présence, mais par tes bénédictions, sustente-moi, fortifie-moi, deviens un avec moi. Alors la topaze donnera sa vivacité et rétablira la chaleur qui lui manque. Je conseille de mettre un diamant dans une cruche d'eau pendant 24 heures. Utilisez cette eau pour boire ou cuisiner. Mais, tandis que vous faites cela, cultivez la compassion. La création tout entière aspire à l'affection et à l'amour. Et dites, je me sens responsable. Je guéris les malades. Moi, le diamant, je suis un doux remède pour tous. Ainsi parle Dieu, dans la présence de la viridité de la matière du diamant. Vous savez bien que le diamant, c'est le rayonnement, la virilité et la splendeur du corps de l'homme au moment où Dieu le crée. Hein. La colère provoque une gastrite, une colite, un intestin poreux, source de mille maux. C'est la colère qui produit cela. Vous pouvez essayer de tempérer, et de la guérir par les vertus, mais profiter aussi de la pierre de calcédoine, ou encore de la poussière d'or en poudre dans de la farine d'épeautre. Et laissez parler en vous la patience. Que la patience dise « La victoire m'appartient depuis l'origine des temps, de par l'invincible Fils de Dieu. Il est venu de Dieu pour sauver l'humanité, puis il est retourné à Dieu. Il est mort sur la croix dans d'atroces souffrances. Il a ressuscité, il est monté aux cieux. Je me remémore ce fait. Je ne fuis pas les misères et les souffrances de cette vie. Je les aime. Hein, comme l'agneau patient. » Alors, à ce moment-là, d'accord, la calcédoine. Si vous n'avez pas de calcédoine, de la poussière d'or. Si vous êtes peintre, vous allez prendre de la poussière d'or. La tristesse et la détresse avec le temps, dans le déséquilibre des humeurs et des éléments, finissent par provoquer une insuffisance hépatique. Le foie a difficulté à digérer le gras. Le remède, c'est de porter une pierre d'émeraude verte ou un topaz d'or. Et avec cela, en même temps, de vivre une quête sincère de Dieu dans la solitude et le désert, c'est pas bon pour autrui. Le bonheur rétortera ainsi à l'affliction. Tu es envieuse, affliction, parce que tu es sans confiance en Dieu. Ne demandant pas d'aide, tu n'en reçois pas. Mais moi, je l'appelle et il me répond. Je lui demande miséricorde et je suis exaucé. Je suis rempli de joie profonde. Je joue de la harpe en sa présence. Je dispose mon œuvre autour de lui. Je place ma vérité en Dieu et place ma vie entre ses mains. Voilà la parole de la virilité de Dieu dans l'émeraude associée à la raison de la lumière de l'homme dans sa virilité en prière. La guérison passe par la charité. Et la charité vous dit, et elle parle, elle s'exprime, elle crie en vous. Je vivifie les actions bonnes pendant le jour. Je régénère les corps pendant la nuit. De Dieu, je suis l'ami la plus suave qui prend part à ses choix, à ses décisions. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient aussi parce que j'ai part à Dieu. Écoutez aussi le respect crié à l'amour du divertissement. Ô saleté, ô bourbier des temps présents, cache-toi. Disparais de mon regard, car mon ami est né de Marie Immaculée. Et elle proclame avec vous, je suis la chasteté, je suis libre moi, non pas enchaîné, j'ai été purifié à la plus pure des fontaines, à savoir le Verbe plein d'amour de Dieu. On fera une autre fois un petit peu les plantes, mais déjà, s'il y a une plante qui s'appelle l'aneth, vous prenez ça, si vous voulez faire une cure d'aneth, après vous allez voir votre médecin, il va constater que vous êtes dépressif. L'aneth rend dépressif. C'est vrai, pas tout. C'est pas très sympa d'être un petit peu victime. On a besoin de travailler. Mais la nette rend l'homme triste. Mais la violette, en revanche, l'aide à lutter contre la mélancolie. Que la bétoine stimule l'esprit de connaissance, que la vue s'améliore à regarder longuement une touffe de thym. Que la fougère est remplie de vertus bénéfiques de toutes sortes. Sache aussi que la myrrhe écarte les fantasmes et que la garance guérit les accès de fièvre.
La carence, c'est le temps.
Oui, oui, je pense que c'est la carence, oui. Le fenouil contient une chaleur douce et sa nature n'est ni sèche ni froide. De quelque façon qu'on le mange, il rend le cœur joyeux, il procure une bonne sueur et assure une bonne digestion. Ainsi, si vous avez un membre cassé ou blessé ou couvert d'ulcères, n'hésitez pas, mangez de la consoude. Le gingembre est très chaud et se diffuse rapidement. Une personne affaiblie pourra prendre du gingembre réduit en poudre, dilué dans une boisson ou incorporé à du pain. Sachez que la camomille est chaude, son suc agréable est un onguent doux pour les intestins. Eh oui, c'est sûr. Il y a bien d'autres choses, n'est-ce pas, dire. C'est juste des petits exemples hein, que je donne. Mais, par exemple, si vous avez des yeux qui se fatiguent, commencez à y voir trouble, et ça risque de se détériorer au fil du temps. Allez donc dans la verdure et dans un pré, et regardez l'herbe verte. Et la verdure, au bout d'une demi-heure, aura enlevé totalement le trouble de vos yeux. Ils seront régénérés par la véridité de la verdure de la vie. Ajoutez-y l'émeraude. Et faites-vous-en un collier. Et priez Dieu que la véridité de sa vie de lumière reprenne alliance avec vos forces divines. Alors, vous verrez mieux. Donc, ça va dans un sens, si vous voulez, mais ça va aussi dans l'autre sens. Il y a un aller-retour entre les éléments en Dieu et nous, mais aussi entre nous et Dieu et les éléments. Et ceci dans un mouvement circulaire, si nous acceptons d'échapper à l'Aquilon et à écarter l'Occident en regardant vers l'Orient. Alors, ça c'était juste en attendant que tout le monde arrive. Parce que maintenant que tout le monde est là, c'était un petit récré ça. Et on va dire, ça vous va? Vous ne calez pas? C'est génial, la dixième vision. Le livre des heures divines. Je vis ensuite, près de la montagne située au centre de la partie orientale, comme une roue d'une surprenante amplitude, qui ressemblait à un nuage blanc et qui était tourné vers l'Orient. Cette roue était coupée en deux par une ligne transversale qui se déployait de gauche à droite, comme la respiration d'un homme. Dans la moitié supérieure de la roue, du sommet jusqu'au milieu de la dite ligne, on voyait descendre un rayon comme une aurore rougeoyante. La partie supérieure de la roue, du côté gauche jusqu'en son milieu, émettait une couleur verte. Et du côté droit jusqu'au milieu, une couleur rouge. Les deux espaces qu'occupaient ces deux zones colorées étaient identiques. La moitié de la roue située au-dessous de la ligne transversale était d'un blanc mêlé de noir. Or voici, au milieu de la roue, et sur la ligne dont je viens de parler, apparaît, trônant, une figure qui m'avait été auparavant présentée comme étant l'amour. Sa parure était cependant différente de l'apparition précédente. Son visage resplendissait comme le soleil. Ses habits avaient la splendeur de la pourpre. Et elle portait un collier d'or orné de pierres précieuses. Ses sandales avaient l'éclat de l'éclair. À hauteur du visage, elle tenait une tablette qui brillait comme du cristal. Cette tablette portait l'inscription suivante: « Je me manifesterai dans la beauté, tel l'argent. » Car la divinité qui ignore le commencement possède une grande clarté. Mais tout ce qui a un commencement connaît les contradictions angoissées et ne peut saisir les secrets de Dieu en pleine connaissance. La figure contemplait la tablette. Puis la ligne sur laquelle elle avait établi son trône se mit à bouger, et à l'endroit où la ligne était reliée à la roue sur le côté gauche, le bord de la dite roue se mit à devenir liquide dans un coin réduit avant de se colorer en rouge, puis de devenir pur et lumineux, puis à nouveau troublé et tempétueux, tout près cette fois des limites de la partie inférieure à laquelle était accrochée la ligne transversale. Alors j'entendis une voix qui venait du ciel, et elle s'adressa à moi en ces termes. « Oh, homme !» Ça ne s'adresse pas à sa tête de garde. « Entends et comprends les paroles de celui qui était et qui est, loin des devoirs qu'impose le temps qui change. C'est Dieu qui a nourri l'antique projet de réaliser des œuvres multiples. Ses œuvres, il les regarda avant l'origine des jours, comme un rayon de soleil. C'est qu'il s'agissait des œuvres futures. Dieu est un, et rien ne peut se rattacher à cette unité. Or, Dieu a prévu que toute œuvre qu'il accomplirait tenterait d'usurper l'identité avec la dite unité. Aussi a-t-il prévu la riposte à cette tentative, lui qui est l'unité. Lui à qui rien n'est semblable. Comment pourrait-il autrement se proclamer l'un? Il écarta celui qui aspirait à cette similitude perverse. Dans l'homme, toute âme raisonnable a pour source le Dieu véritable. Elle doit choisir ce qui lui convient, rejeter ce qui lui déplaît. C'est elle qui connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Bien que Dieu fût unique, il n'en a pas moins prévu dans l'énergie de son cœur une œuvre précise. Et cette œuvre précise, il la multiplia de magnifique façon. Ce Dieu, en effet, il est le feu qui vit. Le feu par lequel les âmes respirent. Le feu qui existait avant le commencement. Le feu qui est l'origine et le temps des temps. Voilà tout ce que manifeste notre vision. La roue que tu aperçois, c'est Dieu, qui n'a ni commencement ni terme. C'est Dieu qui manifeste sa mansuétude dans ses œuvres et qui se montre disposé à l'accomplissement de tous les biens. La ligne sombre transversale, c'est la volonté de Dieu. Elle pénètre entièrement le monde périssable. Elle inspire le terme de ce monde, l'éternité. Elle sépare les réalités temporelles des réalités éternelles. L'autre ligne qui rougeoie comme l'aurore a trait à l'ordonnance divine. C'est que la plénitude de la perfection divine qui domine dans les cieux par la volonté de Dieu toutes les réalités temporelles est prête à une intervention bonne directement. Elle se manifeste de merveilleuse façon comme la foudre qui s'abat avant le début du monde, après sa fin, mais aussi dans le temps même du monde. Elle est prête à toute justice. La partie verte sur le côté gauche a la signification que voici. Quand Dieu décida de faire agir les créatures dans les formes qu'il avait prescrites, il l'éteint, pour ainsi dire, enfermé dans la viridité de sa volonté. Quant à la couleur rouge, sur la droite, elle montre que Dieu, après la fin du monde, améliorera tout ce qui sert la vie dans ce siècle transitoire. Aux âmes des croyants, il remettra la récompense de leurs œuvres étincelantes et il interdira toute imperfection et une domination future. Et si les deux espaces, le vert et le rouge, sont identiques, c'est parce que l'éternité n'a pas de commencement. Avant même que ne commence le monde et qu'elle n'a pas de fin non plus, une fois le monde achevé. Le début et la fin du monde sont comme enfermés dans un unique cercle qui les englobe. La couleur blanche mêlée de noir du cercle inférieur désigne ces temps caduques du début à la fin du monde, ces temps qui ne domineront jamais l'éternité parfaite, qu'aucun terme ne limite. Cette zone inclut aussi bien, en effet, la marque pénible de la pâleur des angoisses que la noirceur des tribulations qui dureront aussi longtemps que le monde. Mais toutes ces prédictions concernent également le salut de l'homme. La puissance de Dieu est en effet liée à l'énergie suprême qui a son assise dans la perfection de la fulgurante justice. Puissance et énergie sont directement liées. La puissance de Dieu possède la rondeur d'une tempérance faite d'équilibre. Elle n'a donc ni commencement ni fin, toute amplitude pour accomplir les œuvres qu'elle désire, sans exception. Sa blancheur évoque la douce fulgurance des jugements des cieux. Et aucun changement, aucune vicissitude, aucune croissance, ni aucun dommage ne touche Dieu. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a dans la transsubstantiation eucharistique. Hein. Quand vous engloutissez dans la transsubstantiation de l'hostie, vous engloutissez dedans, vous avez entendu ça, et du coup vous allez le voir. Parce que vous l'avez entendu. Mais si jamais vous achetez le livre des hommes du vide, les dix visions, c'est pour ça que je vous fais cette petite remarque, concernent ce qui se passe à l'intérieur de la volonté éternelle de Dieu dans l'Eucharistie. Traverse le début d'une hypostatique créatrice que serait la fin du monde dans l'agneau. C'est pour ça que vous avez le rouge et le vert. Et c'est pour ça que de lire ça, c'est bien parce que nous avons une lumière de connaissance et de déploiement de notre intelligence pour voir ce qu'il y a dans le point minuscule de la viridité eucharistique, avant qu'on puisse lui donner, par les forces trinitaires, son déploiement dans l'infiniment grand, hein, de l'Esprit Saint dans le Père. C'est pour ça que c'est très utile, ça, parce que après l'avertissement, il faudra voir ce que nous consommons, il faudra contempler ce que nous voyons. Il faudra toucher ce que nous assimilons. Il faudra devenir ce que nous avons reçu. Il faudra le faire déployer dans le sein éternel du Père et dans la très sainte Trinité. En y emportant nous, l'unité de la création tout entière, en pleine connaissance, nous ne pouvons plus être protestants après l'avertissement. C'est pour ça que ce texte est donné juste avant l'avertissement. La puissance de Dieu est en effet liée à l'énergie suprême qui a son assise dans la perfection de la fulgurante justice. Puissance et énergie sont directement liées. La puissance de Dieu possède la rondeur d'une tempérance faite d'équilibre. Elle n'a donc ni commencement ni fin et toute amplitude pour accomplir les œuvres qu'elle désire, sans exception. Sa blancheur évoque la douce fulgurance des jugements des cieux. Et aucun changement, aucune vicissitude, aucune croissance, ni aucun dommage ne touche Dieu. Aucun temps jamais ne le divise. Aucun commencement ne le lèse. Immuable il demeure, conférant la vie à toutes les créatures, conduisant à la suprême béatitude ceux qui l'adorent dans la pureté. La plénitude de sa puissance dispose de tout dans une juste modération dont l'homme ne peut sonder ni la sublimité ni la profondeur. Elle englobe le temps et l'éternité en un cercle qui ne commence ni ne finit. Aussi la perfection de la puissance divine qui manifeste l'éternité de son ordre dans ce monde. Cette providence qui étincelle dans l'éternité de la dite puissance à la plénitude de l'ordonnancement divin, se manifeste-t-elle d'elle-même dans ses œuvres et proclame que les âmes des bienheureux persisteront dans la gloire des cieux par ses dispositions. L'éternité de la parfaite puissance de Dieu a montré les réalités futures dans la plénitude des créatures. Voilà ce que vit Saint-Joseph dans sa terre de main. Homme, on dit bien homme, n'a qu'un qui a vécu cette révélation, un seul. Et nous, nous devons, comme dit Saint-Thérèse d'Avila, rentrer dans ce qu'il a vécu pour passer et passer à la tête de l'Antichrist. C'est par ces dispositions l'éternité de la parfaite puissance de Dieu a montré les réalités futures dans la plénitude des créatures comme la viridité d'un germe qui devait apparaître et se développer alors que le ciel et la terre n'existaient pas encore. Comme c'est beau. De même, les dons du Saint-Esprit confèrent à l'homme la virilité qui permet de produire des fruits de qualité. La couleur rouge, quant à elle, c'est la constance. Se tenir dans l'unité en commun par la blessure du cœur Jésus. La constance. Marie Stabat Mater, au pied de la croix, la constance. Elle est debout, Stabat, en communion avec l'épouse est debout dans le sein de son époux incréé éternel. D'où pour l'émanation du Saint-Esprit. Et oui, c'est bien ça qui est marqué là. Hein? La couleur rouge, quant à elle, c'est la constance. Permanence qu'atteindra la création après la fin du monde, quand tout sera parfait, quand on ne remarquera plus aucune imperfection, lorsque les âmes des saints auront elles aussi atteint les sommets. L'éternité de Dieu n'a pas eu de commencement. Avant même les origines du monde, aucun terme ne l'enfermera après la fin de ce même monde, lorsque les bienheureux goûteront dans les cieux des délices sans fin. Quant à la perfection de la puissance divine qui inclut en son éternité tous les différents modes de créatures temporelles, elle montre que tout est soumis à Dieu. Elle s'empare de ceux qui négligent Dieu pour les précipiter aux enfers. Tout ce qui contredit en effet Dieu fait l'objet d'un jugement. La figure de l'amour que tu aperçois au centre de la roue, et dont la parure est différente de la parure que tu avais vue dans une autre vision, montre qu'à cette perfection qui permet à la puissance de Dieu de tout soumettre, est joint l'amour, comme en une sorte de quiétude. C'est que l'amour accomplit la volonté de Dieu tout entière. Si l'amour revêt différentes parures, c'est que ces parures sont aussi nombreuses que les vertus qui œuvrent dans l'homme. L'amour est la source de tout bien. Le visage de la figure a l'éclat du soleil pour indiquer que l'homme doit diriger vers le soleil véritable toutes les bonnes intentions de son cœur. Sa tunique est de pourpre. Oui, l'homme qui se fait un vêtement du cœur même de la miséricorde aide autant qu'il le peut toute personne qui s'adresse à lui. Le collier d'or serti de pierres précieuses signale que l'homme qui s'impose le joug de la soumission l'orne de vertus bienheureuses, c'est-à-dire éternelles. il s'humilie totalement. Il montre véritablement qu'il est réellement soumis à Dieu, comme le Fils de Dieu qui, jusqu'à la mort de son corps, obéit en tout à son Père. Si ses sandales ont l'éclat de la foudre, c'est que toutes les voies que suit l'homme sont dans la lumière de la vérité, afin que l'homme suive les traces de Christ, afin qu'il demeure pour les autres un exemple de rectitude et de fidélité. La tablette qui étincelle comme le cristal montre que personne ne peut pleinement saisir la divinité. Elle n'a pas de commencement. Elle n'est soumise à aucun commencement. Ce Dieu n'a jamais été créé. Il existe éternellement, avant le temps. C'est lui qui est le créateur du temps. C'est par le regard de l'amour que la prescience de Dieu se manifeste. Amour et prescience s'accordent l'un à l'autre. Si cette prescience est lumineuse, c'est qu'elle ignore toutes les tâches. Elle ne connaît ni début ni fin, et aucune créature mortelle ne la détermine. L'homme qui veut se soumettre à l'amour aime ce qui est en Dieu. Il contemple Dieu dans la pureté de la foi. Il n'offre à Dieu rien de mortel. Il s'installe dans les joies célestes. Et Dieu a prévu qu'il viendrait vers lui. Si la ligne sur laquelle se trouve le trône de la dite figure se met en mouvement, c'est que lorsque l'amour de Dieu contempla sa prescience, tout ce qui devait se réaliser dans les créatures apparut. Avant même que les créatures qui devaient être créées n'existassent. La volonté de Dieu à laquelle l'amour est joint, comme en une sorte de quiétude, entreprit ensuite la formation des créatures. Voilà, c'est ça la bénédiction primordiale. Dans les patriarches, dans l'Eucharistie, dans l'Immaculée Conception accomplie et son infini. Avec la plénitude reçue de son accomplissement. La volonté de Dieu à laquelle l'amour est joint comme en une sorte de quiétude entreprit ensuite la formation des créatures. Le ciel, la terre, toutes les autres créatures qu'ils abritent se dressèrent alors. Mais quand les anges eurent été créés, certains négligèrent leur hauteur. Ils sombrèrent d'irrévocable façon. Alors que d'autres demeuraient au service dans l'amour de Dieu. Après toutes les créatures, Dieu créa l'homme, afin que l'homme n'eût aucun manque à subir une fois formé. Il donna à l'homme la lumière de l'esprit vivant. Il le consolida merveilleusement de deux modes particuliers, afin qu'il fût feu et flamme. Feu dans l'âme et dans la raison. Et cette flamme qui jaillit du feu. La flamme de la raison sait où elle doit opérer après le baiser de la grâce. Ça, c'est un passage très, très connu. Beaucoup de personnes qui connaissent par cœur ce passage-là. Il le consolida merveilleusement de deux modes particuliers afin qu'il fût feu et flamme. Le feu dans l'âme et dans la raison cette flamme qui jaillit du feu. La flamme de la raison sait où elle doit opérer après le baiser de la grâce. Elle sait ce qu'est la science du bien et du mal. Elle ne brûle pas où elle n'a pas choisi de vrai. Elle fuit, pleine de déplaisir, ce qu'elle ne veut pas réaliser. À moins que l'artiste ne la presse de brûler là où il veut qu'elle se tourne, ou qu'au contraire, il ne la force à s'éteindre, là où elle a choisi de brûler. Dieu a placé ces deux forces dans le fragile récipient du corps, afin de réaliser œuvre utile. La raison du cœur peut ainsi choisir une double voie. L'animal se tourne vers la matière. L'homme, par la foi, demeure aux côtés de Dieu. Le coin de la zone inférieure gauche qui se met à devenir liquide rappelle le jugement de ma puissance qui décida de l'effusion des eaux du déluge quand ma volonté jointe à ma puissance eut engendré les créatures. Adam et ses fils engendrèrent certes des germes convenables, dans la crainte de Dieu et selon la nature de l'homme, mais leurs descendants s'opposèrent d'une honteuse façon à la nature de l'homme. Ne pouvant les supporter plus longtemps, je les étouffai par le déluge. Le diable atterré en trembla de peur. Quand il s'aperçut du caractère invincible de ma puissance qui avait écrasé l'homme, les strates rouges puis blanches qui apparaissent sous cette partie aqueuse évoquent l'époque qui va du déluge à l'incarnation de mon fils, que j'envoyais dans le silence de ma volonté, dans la plénitude de ma puissance, lorsque se furent achevés les temps de violence. C'est alors que les jugements de ma puissance prirent la teinte rouge de la justice. D'autant plus que les hommes, après le déluge, s'attribuèrent dans leurs actions, durant les différents âges, l'éclat de la crainte de Dieu. Ainsi, l'édifice de la crainte de Dieu apparut en Noé, la circoncision d'Abraham, la loi en Moïse, la prophétie avec les prophètes, tous opprimèrent l'idolâtrie comme le jour qui met la nuit en fuite. Toutes les époques se succédèrent en eux, de même que les œuvres des hommes se succédèrent dans les hommes. Quand tous ces temps tendirent vers le déclin, comme le soleil vers le couchant, et comme mon peuple grossissait et s'avançait, je contemplais la plénitude du nombre de ceux dont il est écrit sur mon inspiration. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né de la femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de sa loi. L'arche de Noé est certes déjà le symbole de l'Église. L'obéissance d'Abraham est une tour dans la ville céleste. La loi de Moïse, les colonnes de la maison de Dieu. Mais c'est le Fils qui vint dans la plénitude des temps. Il œuvra avec les chefs de l'Église, les prêtres, les ermites, avec les spirituels, les pénitents, les bons époux et ceux qui croient. Les croyants se regroupèrent autour de lui, comme le soleil qui, jusqu'à la neuvième heure, a un éclat de plus en plus vif. Après cependant que la doctrine des apôtres et les vertus des autres saints eurent rendu les hommes purs et lumineux, vinrent des jours qui renoncèrent à cette énergie dans une féminine faiblesse. Tout les bons usages que la grâce de l'Esprit-Saint avait édifiés dans les hommes depuis les temps des apôtres tombèrent dans les mailles ténébreuses de ces filets qui avaient permis à l'antique serpent de duper le monde. Les apôtres avaient affermi leur doctrine comme dans de l'acier. Ils l'avaient verrouillé avec les clés du ciel. Ils lui avaient imposé des brides dans la crainte de Dieu afin qu'elle ne sombrât pas dans la dérision. C'est qu'il la pratiquait dans un zèle quotidien, la réglant sur le cours du soleil. Il l'a sanctifié par l'abstinence, par la louange et par la prière. L'antique serpent ne s'en demanda pas moins à part lui comment il pouvait détruire et étouffer cette loi nouvelle. Car il se considérait comme dupé. Il vit qu'il avait le temps de lutter contre les fils des hommes, qu'il réussirait à précipiter dans le péché les conceptions des hommes. Il s'attaque à la conception. Aussi, hein?
Parce que nous, on irait même pas, on comprendrait même pas.
L'antique serpent ne s'en demanda pas moins à part lui comment il pouvait détruire et étouffer cette loi nouvelle. Car il se considérait comme dupé. Il vit qu'il avait le temps de lutter contre les fils des hommes s'il réussissait à précipiter dans le péché les conceptions des hommes. Il va s'attaquer à la conception de l'homme. Et il prend son temps pour ça. Tout le travail de l'Antichrist depuis 2000 ans, c'est pour arriver à ce qui s'est passé le 16 juillet dernier. C'est le lieu d'où surgit la source de la virilité et de la maîtrise de tous les éléments. l'accomplissement de la résurrection. Hein? Aussi enflamma-t-il du désir de prévarication le juge royal, qui se mit à recourir à certaines vanités infâmes et à les pratiquer, jusqu'à ce que la main de Dieu s'abattît sur lui. De même, Dieu terrassa Néron et d'autres tyrans, en les privant de tout leur honneur. En ce temps-là, la virilité des vertus se mit à dessécher. La justice tout entière commença son déclin. Dans tous les germes, la virilité s'affaiblit. C'est que les couches supérieures de l'atmosphère s'étaient transformées. L'été goûtait une froideur hostile, cependant que l'hiver connaissait souvent une chaleur contraire. La terre subit alors de telles sécheresses, mais aussi de telles périodes fluvieuses qui s'accompagnaient des autres signes précurseurs dont le Fils de Dieu avait prévu avant le jour du jugement la venue à ses disciples inquiets, que nombreux prétendirent que le jour du jugement était imminent. Ainsi le Fils de Dieu s'adresse-t-il au Père ici. Et il dit, au début, toutes les créatures verdoyaient. Dans les temps intermédiaires, les fleurs s'épanouirent. Mais ensuite, la virilité faiblit. C'est ce que voit le mâle combattant. Il dit, je connais ce temps. Mais le nombre d'or n'est pas encore accompli. Contemple donc le miroir du Père. Memoria Dei. Hein. Je soutiens mon corps la fatigue, mais mes enfants s'affaiblissent. Souviens-toi donc que la plénitude originelle ne doit pas flétrir. Tu as décidé jadis que ton œil jamais ne faiblirait tant que tu ne verrais pas mon corps couvert de pierres précieuses. Si la fatigue me prend, c'est que tous mes membres sont l'objet des moqueries. Père, vois! Je te montre mes plaies. Hommes, tout autant que vous êtes, fléchissez les genoux en face du Père. Qu'il vous tende la main. Voilà comment il faut entendre ces propos. Au commencement, avant le déluge, la terre possédait une virilité telle qu'elle fructifiait sans la peine des hommes. Or, ceux-ci qui relâchaient leur discipline dans le siècle et leur parfaite dévotion à l'égard de Dieu transpirèrent dans de terrestres voluptés. Après le déluge, en cette période intermédiaire qui s'étend du déluge à l'arrivée du Fils de Dieu, les fleurs s'épanouirent autrement qu'elles ne l'avaient fait, avec une sève nouvelle et des germes nouveaux. C'est que désormais l'humidité des eaux et la chaleur du soleil assuraient la cuisson. La fleur, Nazareth, c'est la fleur qui s'épanouit. De même que les fleurs se multipliaient et se développaient, de même la science des hommes enflammée par l'Esprit Saint montait jusqu'à l'étoile nouvelle qui montrait le roi des rois. La sagesse brûlait du feu de l'Esprit Saint, véhicule de l'incarnation du Verbe de Dieu dans la matrice de la Vierge. Par l'étoile dont nous avons parlé, l'Esprit Saint manifesta au peuple l'œuvre accomplie dans la matrice de la Vierge. La clarté de la fleur de l'Esprit Saint, c'est le son du Verbe qui a tout créé. Ainsi l'Esprit Saint féconda la matrice de la Vierge. Il descendit en langue de feu sur les disciples du Fils de Dieu. Après la Pentecôte, il accomplit de nombreux miracles avec ses mêmes disciples et leur postérité. Ce temps donc, qui s'élevait de vertu en vertu, était un temps viril qui manifesta des années durant une énergie pleine de force. Puis la virilité dépérit. Elle se mua en une féminine faiblesse. Elle mit la justice au second plan. Elle se soumit à la folie des mœurs humaines. En ces jours, chaque homme agit à sa guise. Ainsi l'Église connut l'abandon comme une veuve qui manque de la sollicitude bienveillante de son époux. Elle n'a plus le solide bâton du guide sur lequel s'appuient les hommes. Des marchands pauvres et avides dispersent dans les vallées nos enfants. Ils leur interdisent de gravir les collines et les monts. Ils les dépouillent de leur noblesse, de leur héritage, de leurs biens, de leurs richesses. Comme les loups qui suivent les traces des brebis, qui déchirent celles qu'ils attrapent et qui mettent en fuite les autres, ils trompent par leur ruse mes enfants, par des juges trop puissants et par des tyrans injustes. Aussi ces temps sont-ils la prison des artifices du diable. Longtemps, j'ai ainsi laissé la tyrannie de mes ennemis se rire de mon peuple. Mes ennemis possèdent les instruments de torture pour l'humanité. Souvent aussi, dans l'Ancien Testament, j'ai châtié les rebelles. En ce temps, déjà, j'ai laissé les esprits déserts terrifier les hommes en plein des tempêtes. Je les avais frappés, je leur ai infligé de nombreux châtiments. Je les ai affaiblis, rendus malades, parce qu'ils n'abandonnent pas leurs mœurs inquiètes. En leur sein, ils cachent l'envie et la haine. Ils décident en eux-mêmes la perte de leur prochain. Ils revêtent le manteau de l'honnêteté et de la gratitude pour déverser sur lui toute la malice et tous les crimes. Par la création même que j'ai transmise au service des hommes, les hommes aussi sont jugés. L'eau et le feu les étouffent. Le soleil et la lune apparaissent contre nature. Ils ne suivent plus la trajectoire que Dieu leur a fixée. Ils l'abandonnent. Aussi, cette époque accomplira sa course au milieu de la souillure des mœurs des hommes. Le sang sera versé. Toute la constitution honnête de l'Église sera détruite. L'airain et le plomb de l'injustice contamineront l'or de la justice. Toute la bonne volonté de l'homme sera pesée à la balance de l'injustice. Mais au terme de ces jours, dont la faiblesse est féminine, la justice que le Fils de Dieu avait confiée à ses disciples avec l'agneau nuptial, dont il les avait envoyés par toute la terre, surgira. Elle montrera les vêtements que lui ont donnés les apôtres, et qui sont maintenant souillés et déchirés par l'injustice des nations. Et Saint Joseph qui apparaît dans l'avertissement en chacun d'entre nous pour que nous lui soyons semblables dans la première personne de la très sainte Trinité pour une nouvelle véridité du corps spirituel que nous avons et retrouver la conception détruite de l'homme par la tyrannie de la République. La justice et la parure et le vêtement des apôtres, Matthieu et douceur, il revêt de soie la justice, la soie, eh, la soie, pas soi même, mais la soie S-O-I-E. Il revêt de soie. La soie, c'est un tissu fait par les papillons. La soie, c'est un tissu fait par les papillons. Cinquième demeure. Il revêt de soie la justice. Thomas donne à la justice un vêtement de soie verdoyante et verte. Pierre confie un vêtement de lin et de pourpre. Cependant que Matthias prépare le trône royal de la justice. Comme une roue supporte un char, Paul supporte la loi du Messie. Il donne aussi à la justice des sandales d'or pur. Jacques, des oreilles de hyacinthe blanche et rouge. La purification hyacinthe. Pour entendre d'une manière surnaturelle. La hyacinthe. Simon orne la justice de bijoux précieux. Jacques, le frère de Jean, tisse un voile de soie blanche. La conception des hommes. Jacques, c'est important. Jean offre une ceinture de soie verte, la virginité éternelle. Dans la véridité de Dieu. Philippe et Barthélemy, des bracelets. Entrée, une bague assertie d'un topaz. Thaddée, un manteau précieux. Puis Pierre à nouveau qui s'occupe de la couronne. Les vertus de l'Église servent également de parure à la justice. Tout est en fonction de Saint-Joseph. Elle clame son désespoir en ce siècle de faiblesse. Cet état cependant ne durera pas. Le courageux lutteur qui s'attaque au glaive diabolique et à l'injustice tout entière voit dans la lumière inaltérable de sa clarté ces jours inconvenants où la justice tout entière s'effondre. Il les arrache à l'oubli tout en dissimulant les péchés des hommes jusqu'à ce qu'ils se repentissent. Et il dit « Je connais en mes jugements cachés ce temps qui abandonne le bien et qui sombre dans le mal. » Joseph s'est toujours tué. Il s'est toujours endormi. Il a toujours rentré dans l'effacement. Mais le jour du cinquième saut de l'Apocalypse lui est réservé pour qu'il parle à toute la terre et qu'il manifeste qu'il est la justice éternelle et verdoyante de Dieu, le Père, dans la conception de chaque être humain. Il est le principe de la conception immaculée. Dans la conception des parents de la Vierge. Dans le Scyphias, ces temps d'injustice ont été désignés sous le nom chien de feu. Mais la justice adressa ses plaintes au juge suprême. C'est à Dieu, c'est à Saint-Joseph qu'on doit tout ça, voyez. Et Dieu prit alors une voix d'accusateur. Aussi son juste jugement laissera-t-il s'abattre la vengeance sur les prévaricateurs de sa rectitude et sur la tyrannie de ses ennemis. Ils se diront l'un à l'autre, combien de temps supporterons-nous et tolérerons-nous ces loups rapaces qui devraient nous guérir et qui ne le font pas. Parce qu'ils détiennent le pouvoir de la parole qui lie et délie. Voyez, ce qui réclame Saint-Joseph, Joseph Ratzinger, et François qui met Joseph dans tous les canons eucharistiques pour crier à la justice de Dieu. Parce qu'ils détiennent, et c'est les deux seuls papes qui ont dit, l'Église dans son temple est envahie par les loups. Et ces loups veulent dévorer le Saint-Père. Voilà ce qu'a dit Benoît. Voilà ce qu'a dit François. Aucun pape n'avait dit ça, les deux. Et les deux, c'est Saint-Joseph. Oui. Des petits signes comme ça. On ne peut pas le deviner, il y a 888 ans. Parce qu'ils détiennent le pouvoir de la parole qui lie et qui délie. Ils en parlent de tout. Leurs crimes... Tous ces crimes s'abattent sur nous et l'Église tout entière par leur faute flétrie. Car ils ne clament plus ce qui est juste. Ils détruisent la loi comme les loups dévorent les agneaux. Ils ont la voracité des ivrognes. Ils pratiquent maintes adultères quand ils nous jugent sans pitié pour de tels péchés. Ils s'emparent également des biens de l'Église et leur avidité s'exerce là où elle peut. Leur ministère nous apporte pauvreté et indigence. Ils se souillent comme ils nous souillent. Jugeons-les donc et séparons-les, eux qui sont plus séducteurs que docteurs. Il faut agir si nous ne voulons pas périr, car s'ils persévèrent, ils soumettront et perturberont le pays tout entier. Conseillons-leur donc de porter leur robe, d'accomplir leur ministère conformément à la religion de justice, selon les constitutions des patriarches, ou alors qu'ils partent en abandonnant leurs biens. Voilà les reproches que leur adresse avec acrimonie ce que provoquera le jugement de Dieu. Ils se rueront sur eux. Ils diront, nous refuserons leur règne, ceux de leurs biens, de leurs terres, de leurs soucis séculiers. Nous, les princes, nous avons été placés au-dessus d'eux. Comment se peut-il que ces tonsurés, avec leurs robes et dans leurs cellules, aient plus d'armes et de soldats que nous? Ça, c'est beau, ça. Celui qui se lève la nuit a plus d'armes que toutes les puissances du monde. Est-il convenable que le clerc soit soldat et réciproquement? Ôtons-leur donc ce dont ils sont les injustes détenteurs. Veillons seulement à leur laisser les offrandes pleines de sel pour les âmes des défunts et abandonnons-leur ce qui n'est pas le fruit de la rapine. Le Père Tout-Puissant a opéré en tout une juste distribution. Le ciel pour ce qui est des cieux, la terre pour ce qui relève de la terre. Vous voyez, il faut purifier Vatican. Hein. Le partage ici-bas devrait être aussi équitable. Au spirituel, la part qui revient, aux hommes du siècle, ce qui leur revient. Qu'aucun parti n'opprime l'autre par la rapine. Dieu n'a pas voulu que l'un de ses fils reçût or, robe et manteau, pendant que l'autre restait nu. À l'un la robe donc, à l'autre le manteau. Que les laïcs portent le manteau. Ils ont les nombreux soucis du siècle. Leurs fils ne cessent de croître et de se multiplier. Que le peuple spirituel accepte la robe. Qu'il soit nourri et vêtu sans manquer de rien, mais sans posséder non plus. Sans posséder non plus plus qu'il n'est nécessaire. Que cette œuvre débute chez les clercs comme chez les laïcs à la première heure, qu'elle atteigne sa plénitude à la troisième heure, qu'elle s'achève à la sixième. Tous les États pourront alors la considérer et voir que l'ordre est différent de l'ordre actuel. Chaque ordre, en effet, aura sa rectitude propre. Les hommes libres rendront hommage à leur liberté et les serviteurs retrouveront la soumission d'antan. Or, voici, survient ce lion que nous avons annoncé dans le Skiffias. Reine du Sacré-Cœur, le lion. Voici que surgiront bien des guerres dures et cruelles, rejeter la crainte de Dieu. Voici le meurtre de bien des hommes et bien des cités qui sombreront dans la destruction. Mais de même que l'homme domine de son courage la mollesse féminine, que le lion maîtrise les autres bêtes, en ces jours, la cruauté de quelques hommes détruira par un divin jugement la quiétude des autres. Alors Dieu réservera à ses ennemis des peines cruelles pour purifier l'injustice, comme il l'a toujours fait depuis le début du monde. Lorsque ces afflictions auront purifié les hommes, les combats leur répugneront. Dans toutes les constitutions de l'Église qui agréent à Dieu, c'est la justice qu'ils appréhenderont dans la crainte de Dieu. Et bien d'autres biens ils ajouteront, aussi bien dans les jours de paix que dans ceux de guerre et de paix. Dieu, Salomon véritable, ornera son époux et fera luire sa parure ouvertement dans l'Église. Alors apparaîtront des ordres nouveaux, inconnus jusqu'alors, de justice et de paix. Et les hommes diront admiratifs qu'ils n'en ont jamais entendu ni connu de semblable. Et cependant, bien que la paix leur soit offerte avant le jour du jugement, comme en ce temps qui avait précédé la venue du Christ, leur joie ne pourra pas être totale, parce qu'ils redouteront la venue du jugement. Aussi chercheront-ils dans la foi catholique cette justice pleine qui sourd à Dieu Tout-Puissant. Et même les Juifs se réjouiront, proclamant sa venue qu'ils avaient niée auparavant. Ainsi, cette paix même qui avait précédé l'incarnation du Fils de Dieu sera en ces jours pleinement achevée. Des hommes de courage surgiront pour une grande prophétie. Chaque germe de justice fleurira chez les fils et les filles tes sorts. Ainsi que l'a prédit selon ma volonté, mon serviteur Isaïe le prophète. Ce jour-là, le germe de Yahoua deviendra parure et gloire, et le fruit de la terre deviendra l'honneur et l'ornement des rescapés d'Israël. Par ces paroles, Isaïe annonce la naissance nouvelle, la joie qui saisit les fils de Jacob et la fructification des bonnes œuvres. D'après saint Luc, le Christ est le bois vert et l'Antichrist le bois sec. Le bois sec apparaîtra dans les temps de rupture, lorsque la roue du firmament cassera et supprimera la splendeur lumineuse. En ces jours, des nuages d'une extrême douceur toucheront la terre d'un air suave, très suave. La suavité ultime, la contemplation du Verbe dans les élus. Transpireront viridité et fertilité. Alors les hommes se prépareront pour la justice totale. Alors que la fertilité avait fait défaut dans les temps précédents, dont la faiblesse était féminine. Les éléments violentés par les péchés des hommes avaient été déchus de leur fonction. Désormais, les princes assistés de tout le peuple de Dieu conféreront un ordre juste à la justice de Dieu. Ils interdiront toutes les armes qui avaient servi à tuer, et les hommes conserveront seulement les outils de fer pour le travail des temps, les outils utiles pour l'homme. Celui qui transgressera le commandement, c'est son propre fer qui le tuera, et il sera jeté dans un lieu reculé. De même que les nuages envoient une pluie douce et juste, afin que fructifie le bon germe, de même, l'Esprit Saint déversera sur le peuple la rosée de sa grâce, prophétie, sagesse, sainteté, afin que le peuple, que le dit peuple, change et se convertisse en bien. C'est que l'ancienne loi était l'ombre de toute vie spirituelle. La créature la marquait tout entière. En hiver, les fruits sont tous cachés en terre. On ne les voit pas. Ils ne sont pas encore formés. De même, la loi ignorait l'été, car le Fils de Dieu incarné ne s'était pas encore manifesté. Or, sa venue a transformé le monde entier en lui conférant une signification spirituelle. L'été produit fleurs et fruits. En ces jours, la vertu de Dieu permettra l'été véritable, véridique. Car tout aura pour assise la vérité. Les prêtres et les moines, les vierges et ceux qui pratiquent l'abstinence, tous les autres ordres vivront dans leur rectitude, dans la justice et dans le bien, en rejetant tout le superflu et toutes les grandes richesses. Car de même que l'équilibre des nuages et de l'air favorise la nécessaire et inutile fructification, de même le germe de la vie spirituelle se révélera par la grâce de Dieu. Comme nous l'avons dit, la prophétie s'ouvrira, la sagesse sera agréable et robuste. Tous les croyants se mireront en elle comme en un miroir. C'est alors que les anges véritables s'associeront aux hommes dont ils deviendront les familiers quand ils verront la nouveauté et la sainteté de leur conversion. Actuellement, la puanteur de leurs péchés bien souvent les en détache. Alors les justes se réjouiront, eux qui attendent l'espérance de la vie éternelle. Leur joie ne sera cependant pas parfaite puisqu'ils verront l'imminence du jugement futur. Ils agiront donc à la manière de pèlerins en route pour leur patrie. Tant qu'ils sont en voyage, leur joie n'est pas totale. Les juifs et les hérétiques, eux aussi, se réjouiront. Ils diront « Notre gloire est proche, terrassés sont ceux qui nous ont épuisés et expulsés. » Bien des goïms, bien des païens se joindront alors aux chrétiens, dont ils apprécieront la profusion d'honneurs et de richesses. Ils recevront le baptême, ils prêcheront le Christ aux côtés des chrétiens, comme au temps des apôtres, ils diront aux juifs et aux hérétiques, ce que vous appelez votre gloire, c'est la mort éternelle de celui que vous nommez votre prince, vous verrez la ruine dans d'horribles dangers. Vous vous convertirez quand vous verrez le jour que nous a montré le surgeon de l'aurore. Marie, l'étoile de la mer, Ave Maris Stella. Les voilà, ces jours pleins d'énergie et de louanges, dans la paix et la stabilité, semblables à des soldats en armes postés sur un rocher pour tendre une embuscade à leurs ennemis et pour les pourchasser jusqu'à la mort. Ils annonceront la venue du dernier jour, car ils réaliseront tout le bien et toute la grâce prédit par les prophètes. La sagesse aussi. La piété de l'amour du Père, vivant, sensible, brûlant, débordant du Père. La sainteté en ces jours seront confortées, parce que si le Fils de Dieu n'avait pas été prédit par les prophètes, s'il n'était pas venu en un clin d'œil, vite on l'aurait oublié. De même qu'a tôt fait d'être ruiné l'homme corrompu qui vient comme en cachette. En ces jours, cependant, la justice et la piété, dont nous avons parlé progressivement, pencheront vers la fatigue et la faiblesse, même si les hommes réussissent vite à récupérer. Tantôt surgira l'injustice avant de tomber à nouveau, tantôt les guerres, peste, famine, mortalité séviront pour disparaître à nouveau. Rien ne durera ni ne persistera bien longtemps dans un même état. Tout sera en mouvement, apparaissant, disparaissant. L'époque qui commencera alors, c'est celle que nous avons appelée dans le Xiphias le temps du cheval. L'époque de mœurs effrénée, de mortardise. Vous voyez, après l'église de Philadelphie, c'est l'église de Laodicée. La septième église. Les hommes souvent verront se lever en eux la plénitude des volutés, des autres vanités, de l'irrespect. Plongés dans la quiétude de la paix, ils regorgeront de fruits. Aucune guerre ne leur fera plus peur, car la pénurie ne leur apprendra plus la retenue, et s'attribuant toute gloire, ils rendront plus les honneurs qu'on ne doit à Dieu. Source de tous les biens, des périls jamais vus encore suivront les temps de repos et d'abondance. Si les hommes en effet persistent dans cette quiétude, s'ils ne craignent aucun péril, les jours qui surviendront seront des jours tout différents. Des jours pleins de douleurs qui verront s'accomplir les lamentations des prophètes et retentir la voix du Fils de Dieu. Les hommes redouteront à ce point les calamités continuelles qu'ils désireront la mort, disant « Mais pourquoi sommes-nous nés ?» Ils souhaiteront que les montagnes les écrasent. Les jours précédents de douleur et de calamité gardaient parfois encore des moments de répit, de consolation. Désormais, les douleurs de l'injustice n'abandonneront plus ces journées pleines de maux. La douleur s'ajoutera à la douleur, l'injustice à l'injustice. Les homicides, les injustices qui sans cesse se succéderont, ne se compteront plus. Et les hommes seront en ces jours tués par la fureur de leurs proches, comme des animaux qu'on abat pour manger. La plus grande sainteté et la plus grande horreur vont s'associer ensemble pour faire la tiédeur. Tant d'invasions étrangères, de rapines et de guerres, destruction de régions et de cités, contamination et des disciplines de l'Église, jours qui annonceront des jours pires encore la venue de l'homme déchu. Heureusement, l'Église épouse du Christ prie. Le Fils demande au Père de se souvenir de la pérennité de la plénitude originelle des générations humaines. Or, quand les peuples incroyants et horribles dont nous avons parlé auront envahi tout alentour les biens et les possessions des églises, quand ils se seront acharnés à leur destruction et à leur perte, comme vautours et faucons qui écrasent tout ce qu'ils retiennent sous l'aile et sous la griffe, quand le peuple chrétien épuisé totalement, poussé à la repentance de ses péchés, aura tenté la résistance armée sans craindre la mort, alors un vent très violent, venu du nord, accompagné de brumes épaisses, de nuages d'une très épaisse poussière, lancera son souffle contre eux. En répondant au jugement de Dieu, leurs gorges se rempliront de brouillard, leurs yeux de poussière, avant qu'ils ne renoncent à leur férocité frappée d'une stupeur extrême. Mais la sainte divinité enverra des signes, des miracles au peuple chrétien comme Moïse et sa colonne de nuée. Et de même que l'archange Michel a lutté contre les païens pour la défense des chrétiens, de même les fils de Dieu qui ont la foi sous sa protection tomberont sur les ennemis et emporteront la victoire de par la vertu divine. Ils livreront les uns à la mort, ils expulseront les autres. Aussi une foule nombreuse de païens se joindra-t-elle à cette époque aux chrétiens dans une foi authentique, disant « Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu véritable, lui qui a révélé de tels signes en ses hommes. Quant aux vainqueurs que Dieu aura tenus sous sa protection, ils loueront Dieu en ces termes, louons le Seigneur notre Dieu, en nous il a été véritablement magnifié, puisque nous sommes vainqueurs en son nom. Notre courage, c'est sa louange, puisque nous avons grâce à lui dominé ses ennemis, qui sont les nôtres, puisque nous avons cru fidèlement en lui. Et ils répéteront « Prêtons attention aux paroles de Dieu dans l'Évangile. Le peuple des païens se dressera contre celui des chrétiens, comme cela parmi nous s'est produit. Reconstruisons les cités voisines et les maisons détruites. Renforçons leur défense plus qu'auparavant, afin que des maux semblables ne nous écrasent, comme c'était actuellement le cas. Et de toutes leurs énergies, de toute leur âme, ils accompliront la dite œuvre avec courage et sans parcimonie. » L'injustice donc souvent se vautrera dans la faiblesse pour ensuite essayer de se redresser. Parfois cependant la justice manifestera encore sa rectitude et les hommes de ce temps reprendront les pratiques et les disciplines antiques de leurs ancêtres. Chaque roi, chaque prince, chaque évêque trouvera en son proche un modèle de discipline quand il le verra observer la justice et mener une vie honnête. Et les nations feront de même quand elles apprendront que leurs voisines progressent vers le bien en s'élevant dans la rectitude. L'air recouvrera sa douceur. La terre produira des fruits utiles. Les hommes redeviendront sains et forts. En ces jours, les prophètes et les sages se multiplieront. Les énigmes des prophètes et des écritures se révéleront aux sages dans leur plénitude, cependant que leurs filles et leurs fils prophétiseront, comme il a été prédit il y a bien longtemps. Ces phénomènes se produiront dans une pureté si authentique que les esprits de l'air renonceront à leurs moqueries et leurs quolibets. Ils prophétiseront dans le même esprit que les anciens prophètes qui annoncèrent jadis les secrets de Dieu et conformément à la doctrine des apôtres qui dépassa toute l'intelligence de l'homme. Mais les hérésies, les turpitudes et les maux eux aussi bouillonneront entre-temps, proclamant l'arrivée prochaine de l'Antichrist. Au point que les hommes de ce temps diront qu'ils n'ont jamais vu auparavant surgir des crimes et des impuretés de cette envergure. C'est ce que symbolise dans le Skivias le temps du porc. Lorsque la justice règne quelque part, l'iniquité la combat aussitôt. Lorsque l'iniquité se renforce quelque part, la justice la confond, car le monde ignore la stabilité. Remarque bien, homme, que la partie extérieure de la roue que nous avons décrite abrite une tempête violente et agitée. Au voisinage de la ligne transversale qui constitue le diamètre de la dite roue, en ces temps en effet, la justice divine sera violence et agitation. Près des limites de cette énergie qui confère au monde sa vigueur, là où se joignent la volonté et la puissance de Dieu, la puissance dépend de la volonté et elle limite et le monde et ce qui est dans le monde. On ne trouvera plus ni pureté ni quiétude de la foi catholique dans le cœur des incroyants. Les hommes de ce temps fuiront la stabilité et la sincérité de la foi véritable, abandonnant Dieu et se tourneront vers le fils de perdition. Celui-ci, apportant le trouble dans toutes les institutions ecclésiastiques, infligera aux croyants qui lui résisteront toutes les bourrasques de l'adversité. Et quand les hommes, après avoir enduré bien des tribulations, dues aux invasions des peuples étrangers, aux divisions internes et à celles de l'Empire, se reposeront, ce seront tout d'un coup un bouillonnement d'hérésie et de troubles nombreux qui frapperont la dignité de l'Église. C'est en ce temps-là qu'une femme impure mettra au monde un fils impur. Et l'antique serpent qui dévora Adam le gonflera à ce point de toute sa clique que rien de bien n'entrera ni ne pourra entrer ni demeurer en lui. Il sera élevé en plusieurs endroits reculés afin que les hommes l'ignorent. Et imprégné de toutes les arts diaboliques, il sera caché jusqu'à sa maturité. Ses vices, il ne les manifestera que lorsqu'il aura pris conscience de sa plénitude et de sa profusion dans toutes les iniquités possibles. Dès sa naissance, les dissensions, les contrariétés se multiplieront, détruisant les ordres justes, recouvrant de ténèbres la rectitude de l'ardente justice et teignant chez les hommes l'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez situer Saint Hildegard, c'est l'an 1111. La première fois qu'elle est irriguée de toutes les énergies célestes, flambante dans la révélation qu'il est faite à la 300 et demi. 1111, Saint-Michel-Archange et l'Immaculée Conception. 1000, l'Immaculée Conception. 111, Saint-Michel-Archange. L'association de Saint-Michel-Archange et l'Immaculée Conception sont la manifestation du terme des 300 et demi des 1290 jours de Saint-Hildegard qui représente l'humanité de l'Église au jour de l'avènement de l'Antichrist. Elle est née en 1099 et 888 ans après sa naissance. Oui, on remarque, vous voyez, c'est ce que disait, c'est ce que, vous savez, c'est en l'an 666 après Jésus-Christ, si vous comptez, dans le calendrier, hein, Jésus est né, 14 du mois de Nisan, de l'an moins 5 avant Jésus-Christ, 670 ans plus tard, le Othman, troisième calife après Mohammed, écrit le Coran. Le Coran n'a pas été écrit par Mohammed, mais par Othman, le meurtrier des fils de Mohammed. C'est 666 ans après. 666 ans plus tard, Occam a détruit l'intelligence des sources de l'existence et des sources de la vie. C'est l'ontologisme. Il a fait naître toutes les hérésies de l'intelligence qui, peu à peu, ont fait naître dans le courant de ces 660 années qui ont suivi toutes les hérésies. Et le troisième 666, c'est 1998. Vous avez tout compris. Parce que 666, trois fois, c'est 666 dans la dimension de l'homme. Donc on n'a pas besoin d'apprendre Madame Soleil pour savoir à quelle année est né l'Antichrist. Et bien aussitôt qu'il naît, même si personne ne sait où il est, personne, lui-même ne sait pas qu'il l'est. Puisque c'est seulement quand il aura connaissance de la profusion de ses œuvres et de ses puissances. Donc quand il aura la plénitude de la maturité, là il le saura et il en prendra possession. Vous l'avez entendu. La tristesse s'abattra en ce temps sur les hommes. Mais aussitôt cependant qu'il va prendre sa progression à l'âge de 3 ans et demi, déjà un désastre. Hein, le 11 septembre 2001, 3 ans et demi après, 3 ans encore et demi après, Sikoussi met ce même à l'ONU, 3 ans et demi après, la pieuvre noire s'introduit dans la chambre nuptiale de l'origine de feu et de la matière. Ans et demi plus tard, c'était 2012. Vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé en 2012? Pour tenir compte de tout ça, hein? En tout cas, au fur et à mesure, voyez, donc 3 fois 4, 12, c'est normal quand c'est dans le quatrième cycle, là il va y avoir une espèce de grande victoire de la bête, de la pieuvre, de la pieuvre noire, de l'araignée horrible et dévastatrice. La tristesse s'abattra en ce temps sur les hommes, mais lui, personne, lui-même ne sait pas qui il est. Quant à ceux qui garderont la perfection dans la foi catholique, ils atteindront dans la plus profonde contrition les ordres de Dieu. Les tribulations croîtront jusqu'à ce que le Fils de perdition ouvre la bouche pour proclamer sa doctrine contraire. Alors, quand il lancera ses paroles de fausseté de duperie, le ciel, la terre seront secoués de tremblements, la chaîne de la justice que Paul a fait descendre jusqu'au pied de la dite figure pour la première fois sera soulevée comme par le souffle d'un grand vent, elle qui jusqu'à ce temps n'aura été ni cassée ni tordue. C'est que Paul a solidement conforté sa doctrine par des miracles si nombreux. Il a orné et décoré de tant de paroles d'une profondeur extrême qu'elle peut durer jusqu'à la fin du monde, comme le montre cette chaîne qui descend jusqu'au pied de la justice, comme jusqu'à la fin du monde. Paul, par la vérité dans l'élévation de son esprit, a annoncé aux fidèles la seconde venue du Fils de Dieu et l'incursion destructrice du Fils de la perdition. Épître, c'est la deuxième épître aux Thessaloniciens que tout le monde doit connaître par cœur. C'est que l'homme vit au centre de la puissance de Dieu. Avant que l'homme eût été formé, Dieu existait. Et après que l'homme en son corps aura connu la fin, Dieu persistera dans son énergie. La puissance divine avait rejeté l'antique ennemi dans l'abîme. Cet ennemi croit pouvoir achever l'œuvre commencée par cet autre homme qu'est l'Antéchrist. Celui-ci profère une doctrine perverse. Il enseignera à l'homme que le contact charnel n'est pas un péché. C'est très bien. La nature. Vivez-le dans un cœur virginal. Dans la sensualité nouvelle, si vous vivez dans le corps originel et dans le corps spirituel venu d'en haut, il n'y a plus de péché. Comprenez? C'est pas, ce ne sera pas aussi grossier que... Ça paraît horrible du temps de Saint-Étienne de Clermont, mais ce sera très subtil, très extraordinaire, très transparent, très virginal, rempli des énergies du Christ. Nous avons retrouvé l'innocence primordiale. Nous avons accès à l'arbre de vie. Par la grâce de Christ. Donc, celui-ci profère une doctrine perverse. Il enseignera à l'homme que le contact charnel n'est pas un péché, que les hommes se composent d'un pôle chaud et d'un pôle froid, et que ces deux pôles doivent s'attirer. Ainsi, Lucifer niera par l'Antéchrist la justice de Dieu. C'est de l'homme qu'est sortie la femme. Cet homme portera le nom d'homme du péché parce qu'il accomplira tous les maux et parce que tous les maux s'abattront sur lui. Il portera le nom de fils de la perdition parce qu'il est sous le règne de la mort et de la perdition, parce qu'il s'attire, après l'avoir séduit une multitude de nations par des voies perverses et infâmes, parce qu'il se fait adorer tel un Dieu, ainsi que Jean l'a dit, le témoin de la vérité, dans sa description de la figure bestiale et féroce. Apocalypse 13:8, tous l'adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce propos concerne l'avenir. Voici comment l'interpréter. Le corps et l'esprit avilis, ils adoreront la bête d'injustice, ceux qui fixent leur cœur et s'attendent à des réalités terrestres, ceux dont les noms ne sont pas marqués des signes de la sainteté de l'éternité de cette vie, dont la bouche ignore la ruse. Aussi sera-t-il plongé dans la perdition. Quiconque adorera les écrits de cet homme perdu, quiconque le vénérera, quiconque portera en son cœur l'écriture de Satan, chassé par Dieu, parce qu'il a voulu être Dieu. Aussi son nom est-il mort, lui qui fuit cette vie, qui ignore toute mort et qui tout vit. Et tous ceux qui adhéreront au Fils de perdition et qui accompliront ses œuvres ne seront pas écrits dans le livre de l'agneau, parce que cet agneau, c'est le Verbe de Dieu. Ce fiat qui est la source de la création tout entière. Dans les deux testaments, le diable a eu ses zélateurs assidus. Par Baal dans l'ancien, par les Sadducéens dans le nouveau, tous promoteurs du schisme. Par les turpitudes de Babylone, la loi de Dieu a tout d'abord été violée. elle qui est la racine de toute justice et qui abritait les patriarches et les prophètes. Ensuite, dans le Nouveau Testament, aux côtés des Sadducéens, on a nié la résurrection en abaissant la justice. Deuxième transgression. Le vrai fruit des rameaux, en effet, c'est le témoignage de Christ, méprisé par l'idole Baal et par les Sadducéens, synagogue de Satan. De Baal et des Sadducéens procéderont les hérétiques. 1332, 666 plus 666. Occam, matrice de toutes les hérésies de la terre. Qui contredisent les conditions de la première croissance. Pire encore sera leur erreur. Ils nieront totalement Dieu dans sa création. Le péché s'est introduit. La création est totalement détruite. Jésus seul nous sauve. La création, par le péché, est totalement détruite. Menteur! Seigneur Luther. Menteur! Père Martin, la création n'est pas détruite, elle est seulement abîmée par un vent d'Aquilon. Ils abandonneront la foi en Dieu Tout-Puissant qui prétendent n'encourir aucun dommage en néglissant les préceptes divins. Ainsi l'incroyance descend jusqu'à la tête de léopard, tête en or qu'on voit apparaître dans le collier dont nous avons parlé. C'est que l'Antichrist prend le nom de Dieu, comme d'une tête en or. Il a les apparences de la charité parfaite, d'or pur. Il provoquera par les arts diaboliques en déchaînant les éléments d'horribles prodiges et de terribles tempêtes. Dieu n'interviendra pas tant que le genre humain n'aura pas pris conscience de sa déchéance. Ainsi l'Antichrist simulera la mort et la résurrection pour la rédemption de son peuple en marquant de ses stigmates le front des peuples, le front de ses adeptes. Il leur infligera tous les maux possibles, tout mal spirituel. De même que l'antique serpent a su enflammer le désir de l'homme pour le tromper, puis pour l'empoisonner. Par cette écriture, il les dressera à ce point contre le baptême et contre le non-chrétien, grâce à la magie, qu'ils refuseront de l'abandonner et qu'ils prendront son nom comme les chrétiens prennent le nom de Christ. Depuis longtemps, Lucifer conserve par devers soi cette écriture. Et il ne l'a révélé à personne, sinon à celui qu'il possédait tout entier dans le sein maternel, et par lequel il était sûr de pouvoir accomplir toute sa volonté. Cependant, cet homme de perdition ne tiendra pas du diable son âme ni sa vie, mais de Dieu. L'initiateur lui-même de l'antique séduction, celui qui déteste tout bien, a reçu sa vie lui aussi de Dieu. C'est que Dieu seul est vie. Lui qui anime tout souffle et toute vie. Lui seul, le seul commencement sans commencement. Lucifer combattit Dieu au ciel. Par cet homme de perdition, il essaye également de lutter sur terre contre l'humanité du Fils de Dieu. Il le fait par cette écriture qui nie Dieu et le Créateur de tout. Il promet aux siens le don illustre de biens plus grands encore que ceux que Christ, le Fils de Dieu, a apportés à ceux qui croyaient en lui. Cette écriture n'avait été ni vue ni inventée en aucune autre langue. C'est Lucifer qui la forgea de toutes pièces et qui la révélera dans la ruse afin de pousser les hommes à ignorer leur Créateur. Mais Dieu détruira tous les efforts de cette écriture. Et son auteur même, quand Lucifer se mettra à rassembler autour de lui toutes les générations par ses signes fallacieux, les sots et les justes seront frappés de terreur. Or, moi qui suis, je me souviendrai de la formation du premier homme. Moi qui ai prévu toutes les œuvres par lesquelles Lucifer se servira de l'homme pour s'opposer à moi. Pour le combattre, j'ai déjà marqué les saintes vertus, déjà par Enoch et par Élie. Je les ai choisis parmi la race des humains, eux qui s'attachaient à moi de tous leurs désirs. Vers la fin des temps, je montrerai aux hommes comment accueillir les témoignages de ces deux semblables de leur nature. Je les instruirai tous deux dans mon mystère. Je leur révélerai les œuvres de l'homme, afin qu'ils les connaissent comme s'ils les voyaient en chair et en os. Leur sagesse dépasse celle des écrits et des discours. Quand ils ont en effet été enlevés au regard des hommes, ils ont abandonné toute crainte et toute terreur, au point d'endurer avec équanimité tout ce qui les entoure. Aussi les ai-je gardés en des lieux secrets, dans l'invulnérabilité. Or, quand le fils de perdition suscitera sa doctrine perverse, cette même énergie qui les souleva du milieu des hommes les ramènera comme dans un souffle, et tant qu'ils séjourneront sur terre au milieu des hommes, ils ne se nourriront que tous les 40 jours, comme mon fils qui durant 40 jours jeûna. Ces hommes sages et courageux sont symbolisés sur le collier de justice par une tête de capricorne, parce que de même que le capricorne est courageux et se dresse, ma puissance leur donnera la force et les exaucera rapidement sur les sommets de mes miracles. Capricorne, c'est un agneau, mais avec la force des deux témoins de l'Apocalypse. Qui se dresse. Capricorne est courageux, se dresse, ma puissance leur donnera la force et les exaucera rapidement sur les sommets de mes miracles. En eux, ils posséderont une énergie telle qu'ils pourront accomplir dans le firmament, dans les éléments, dans toute la création, des signes plus grands que les signes du fils de perdition, déjouant ces signes fallacieux par leurs signes de vérité. L'énergie considérable de leurs miracles attirera vers eux, de toutes les nations, des hommes qui croiront en leurs paroles et qui courront au martyr infligé par le fils de perdition comme à un repas dans une foire ardente. Alors sera achevé le nombre en or des heureux martyrs. À cause de la foi véritable par ces martyrs que l'on aura tués dans les errements des derniers temps, c'est que ceux qui sont dans l'autel, c'est que ce temps dévore et terrasse tout. Aussi l'ai-je désigné dans le Skivias par le loup. Le loup rapace en effet dévore tout ce qu'il peut. En ce temps, les croyants qui croient au Fils de Dieu seront engloutis. Aussi le Fils de Dieu s'adresse-t-il à nouveau au Père pour proclamer qu'il reconduira les hommes déchus au bercail tout en rejetant les révoltés. Il en appelle à la miséricorde du Père, tout en demandant aux hommes de se repentir. Ces plaies qu'il montre au Père restent ouvertes tant que l'homme continue de pécher. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Nous avons encore que 2 jours et demi, n'est-ce pas, pour continuer à lire quelques visions. Je ne sais pas du tout quelle heure il est.
6h30.
Alors, si vous voulez bien, on va se détendre pendant un quart d'heure. Vous pouvez respirer, regarder l'herbe verte pour mieux voir la vérité de l'essence de votre âme. Merci beaucoup. Je salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.